Bonjour à toutes et à tous, et bonjour à Thomas, Romain et Plume qui voient sa bouteille d'eau bizarre. Bonjour à toutes et à tous, évidemment, chers lecteurs, chers vidéastes amateurs ou pas d'ailleurs. Et cher Poufi qui est derrière là-bas son pupitre en train de dormir. Vous le voyez pas, mais
son pupitre.
Un jour on va le filmer.
Tel un écolier.
Ouais, exactement.
Non, c'est le chef d'orchestre.
C'est exactement, chef d'orchestre.
En blouse avec son petit short
ouais,
en dessous.
En blouse attaché avec les mains dans le dos, exactement. Eh bien, bonjour à tous, donc, pour la 20e fois. Bienvenue dans l'émission 515 de Gameblog.
On fait comme à la télé, on se dit bonjour.
On
se vous voit.
Comme ouais. À la TH, exactement, on se vous voit, parce qu'on s'est pas vu depuis 2 heures. Donc, c'est vraiment jamais. Alors, bienvenue à Thomas.
Hello.
Comment allez-vous?
On avait écouté très bien, mon cher Travis.
Ce jour de pré-grève.
Exactement.
National.
Ouais.
On sait tous que tu vas faire grève, de toute façon.
Exactement.
Comme
par procuration.
Roux, comme tout rouille et communiste.
Comme tous les Français.
Exactement. Romain, qui lui à Levallois fera pas grave, bien
bonsoir,
sûr. Parce qu'il attend le retour de Balkany.
Évidemment.
Ah bah nos bulletins de vote sont déjà prêts,
sont déjà chauds. Les urnes sont prêtes à accueillir.
Sont déjà stockés à la mairie.
Ah, exactement. Oui. Et Plume, lui, qui flippe sa race.
Ouais, ça doit être ça.
C'est vrai. Bah voilà. Et Poufi qui dort derrière là-bas, encore une fois, je vous le dis.
C'est là où
on voit
que tu lui fais peur, Plume, parce que toi, t'as pas eu le droit à ta petite phrase ou ta petite vanne.
Mais je sais même plus, je connais même
il
plus
respecte,
le nom de...
Il te respecte, toi, contrairement à moi.
Attends,
c'est vrai
le nom de mon maire à Agnières, je sais même plus qui c'est.
Mais si, c'est Schliemann.
Ah oui, c'est vrai, c'est Schliemann.
C'est que je l'avais déjà à l'époque quand j'habitais à Agnières.
C'est vrai.
En fait, il est venu pendant 2 mandats, je crois. Il s'est fait virer pour malversation, je sais pas quoi. Si je dis pas de bêtises, attention à la diffamation. Mais je crois qu'il y avait un truc comme ça bizarre. Et il est revenu une fois que t'es revenu à Agnières.
C'est incroyable comme anecdote.
Et non, mais le mec, ça fait quasiment mais 20 ans qu'il est là-bas.
Bah, faudrait qu'on en fasse un thème.
Mais c'est quoi, d'ailleurs, c'est le premier thème de ce podcast.
Attends, on parle de Balkany, pourquoi
les
on pas parler d'Agnières.
C'est quoi son nom?
Aïch Schliemann, son prénom, je sais plus.
Aïch, c'est son prénom?
Non, c'est son nom de famille.
Jean-Luc, non, Jean-Jacques.
Ou Daniel, ou
comme je connais
ou,
pas, Jean-Louis. J'ai essayé de découper où était le prénom, où était le nom de famille.
Non, son nom de famille. Honnêtement, je m'en fous, c'est pas très grave.
Bah, c'est ok, abordé.
C'est très important.
C'est toi qui as abordé le problème.
Non, mais je là-bas.
Bienvenue dans Maryblog, le podcast de Maryblog.
Exactement. C'est Manuel.
Manuel et Schliemann, pardon.
Voilà.
Bon, j'avais dit Daniel, j'étais pas très long.
Non.
Toi, t'avais dit Jean-Luc. Alors,
je fais ce que je veux.
Bah, c'est Daniel, Manuel, déjà, il y a une consonance. Hein.
Bon, de toute façon, on s'en fout.
Bon, on s'en fout. Bon, vous habitez où? Vous dites tout dans le commentaire. Dites-nous
qui est votre mère.
Si vos mères sont pas en prison,
quelle partie.
Si vous êtes pas d'accord, vous avez qu'à vous donner rendez-vous.
Et on se donne rendez-vous d'ailleurs la semaine prochaine pour parler de la mairie de Levallois-Perret. Ou pas du tout d'ailleurs. On va avoir 12 procès au cul. Et on dira que c'est à cause de Romain Mahut. Bon, allez, soyons sérieux quelques secondes. Enfin quoi, 1h15 à peu près. Pour cette émission 515, et on va parler de plein de choses. Le win, le fail et 3 thèmes très importants qui vont tout donner. Life is Strange 2 que tu as fini.
Ouais, enfin. Ça y est.
Saison de final dont tu vas nous parler.
Ouais, ça faisait quasiment, ça fait un an, plus d'un an,
un an
que
demi,
ça avait commencé.
Ouais.
Ça avait commencé en septembre 2018.
Là, c'est ça, tout à fait.
Donc ça date.
Donc, l'épilogue, tu vas nous en parler, tu vas nous dire si ça se termine bien.
Tu
ou
vas
si
nous raconter la fin.
Et si tu as pleuré.
Bah, j'étais à la rédac, donc il fallait que je me retienne
c'est
un petit peu.
Ah ouais, c'est,
ça qu'on entendait.
Les sanglots derrière, bizarre. Le thème 2, ça sera SNK. La manette magique.
Tu l'as bien dit du premier coup.
J'allais encore dire Capcom.
Tu t'es pas bourré sur le constructeur, c'est déjà pas mal.
J'allais encore dire Capcom, je te promets. Et pourtant, je l'ai sous les yeux là, sous mes putains de yeux. Donc l'arcade stick, Thomas, tu vas nous en parler. Tu l'as
retourné.
Tu l'as retourné dans tous les sens et tu l'as revendu juste après, bien sûr.
C'est pour ça qu'il est là d'ailleurs.
Ah, oui, je sais. Mais là, on est en différé. Tu l'as revendu juste après.
Quelle
parce que je vois dans le turfu en fait.
Ok.
Voilà donc. Et Romain, toi, tu vas nous parler, entre autres, enfin, pas que toi, mais des 25 ans
si,
de la PlayStation.
Si, c'est un monologue.
Les 25 ans de la PlayStation. T'imagines?
Oui. Bah oui.
25 ans.
C'est là où on se prend un coup de vieux. Bah, si, malheureusement. Enfin, malheureusement, non, j'étais né, oui.
Tu viens de dire que tu l'as
c'était
acheté.
C'était mon cadeau de Noël.
Tu l'avais acheté 40 000 euros à l'époque.
2099.
Ouais. Francs.
Francs.
Ouais, mais faut compter aussi la carte mémoire.
Nouveau ou ancien?
J'ai pas eu la carte mémoire tout de suite.
Bon, y a pas
j'ai
besoin
galéré
au début.
Pendant. Ouais, sur les premiers jeux, t'avais pas vraiment besoin.
Bon, on en parlera tout à l'heure de toute façon. Hein. Et bien sûr, il y a 10 ans sur Gameblog, plus le hors-jeu à la fin. On va pas refaire l'anniversaire parce qu'évidemment, c'est la PlayStation qui est à l'honneur. Donc voilà, ça suffira largement. Et on va commencer tout de suite avec le win, n'est-ce pas? C'était quoi ce win cette semaine, mon cher Plume qui est là?
Mais pour la vidéo, vous comprendrez.
La vidéale.
Alors, le win de la semaine, c'est la réouverture.
C'est vrai, ok, merci, salut. Bon, alors le fail. Bon, ok, vas-y.
La réouverture, un jour, du musée Art Ludique. Ouais. Tu sais qu'il y avait cette magnifique galerie qui était située dans le 13e, à la cité de la mode et du design.
En bord de Seine.
En bord de Seine, absolument.
C'était magnifique, même, si vous avez jamais été.
Qui était un super endroit et qui accueillait des expositions assez géniales, dont une sur Hardman, une sur Pixar, oui. une sur Marvel, c'était la dernière d'ailleurs en fin 2017, et ils ont eu quelques soucis en fait avec le nouveau propriétaire des lieux qui leur a demandé de payer un loyer bien supérieur à ce qu'ils avaient eu l'habitude de payer jusque là.
Alors c'est la flambée des prix sur Paris.
L'endroit était très visité, vraiment. Les expositions marchaient toujours du feu de Dieu, et il y a notamment celle sur l'art dans le jeu vidéo qu'on avait pu nous visiter en 2015, qui était vraiment excellente. Et donc ils sont obligés de chercher un autre endroit, et cet endroit ils l'ont trouvé. Ce sera la gare Saint-Lazare. Alors c'est un peu bizarre de se dire que ça sera dans la gare Saint-Lazare, mais il va y avoir 1300 mètres carrés qui vont être réquisitionnés en gros par le musée art ludique, qui vont se situer au troisième niveau de la gare derrière l'horloge. Et voilà, début 2021, Jean-Jacques et Diane Launier vont pouvoir remettre une petite expo. Alors d'abord une expo pas temporaire mais permanente
ouais.
dans laquelle il y aura probablement des tas de choses à faire et à essayer, que ce soit sur le plan du cinéma, du manga ou du jeu vidéo. Et ponctuellement, il devrait y avoir aussi des expos temporaires qui devraient être tout aussi intéressantes les unes que les autres, puisque Jean-Jacques Launier et Diane Launier ont des contacts un peu partout et arrivent à faire des trucs vraiment, vraiment assez excellents à chaque fois. Donc on a hâte d'être en 2021. On n'est même pas encore en 2020, qu'on a déjà hâte d'être en 2021.
En plus, on a une artiste à la rédac. Elle pourrait exposer
là-bas. Elle pourrait exposer. Ouais.
Ah ouais. Attends.
Bon, elle est un peu monosujet, mais elle les dessine bien, donc on ne sait pas.
Je sais pas. Est-ce qu'on une
exposition? Tu veux les inciter à trouver un nouveau lieu rapidement?
Bon. Pour le coup, ça sera fermé.
Bon, au troisième étage, les enfants n'auront pas le courage de monter.
Il y a des pays où c'est
célébré.
Où c'est célébré, les bites.
Au Japon, il y a carrément des.
Où c'est censuré, même.
Des célébrations liées à ça pour la fertilité.
Ah oui, la fameuse fête avec les personnages qui se baladent dans la rue. C'est très bizarre. Effectivement.
Et des tubs géantes sur des chariots.
Oui, c'est ça.
C'est surtout ça.
Ça vous choque, vous, parce que vous êtes de vieux réac, mais.
Aussi, enfin, des trucs comme ça. En forme de tub.
Bah, on a les pâtes en zizi ici.
On a aussi une boulangerie qui fait des galettes des rois en forme de tub.
C'est vrai.
Ouais, non, il y a pas beaucoup.
C'est les fèves qui sont en forme de tub, pardon.
Et des pâtisseries érotiques aussi.
Bref, ouais, c'est vrai. Absolument. Donc pourquoi pas.
À Chantilly.
Bah voilà, on peut peut-être enfin trouver un job pour
si tu nous écoutes.
Effectivement.
Donc voilà,
merci,
c'est une super nouvelle.
Pour ce win, ouais, tout à fait, c'est très très bien. Donc, mais par contre, 2021, il faut attendre un petit peu. Et d'ici là, on espère qu'il n'y aura pas d'inondation sur Paris.
Bah, surtout qu'il n'y aura pas trop de grève.
Engloutira tout. Ouais, tout à fait. Et le fail maintenant, le fail de la semaine, et ça, c'est. Enfin, c'est une bonne chose, mais en même temps, c'est un fail pour un éditeur bien connu.
Le fail est pour Riot.
Ouais.
Et le win, est, en quelque sorte, est pour les personnes qui ont été touchées par ces problèmes.
Alors, justement.
Donc, fin 2018, donc il y a un an tout juste, il y a un recours collectif qui a été lancé en justice aux États-Unis contre Riot Games par des anciennes employées EES en raison des conditions de travail qui étaient jugées comme étant exécrables pour les femmes chez Riot. Hein, et ça va du harcèlement aux petites remarques déplacées, enfin toutes les joyeusetés qu'on peut avoir dans ce genre de circonstances.
Comme chez Gamelog, finalement.
Oui,
exactement.
Tu sais, les mains au cul que Traz nous passe quand on va à la photocopieuse,
C'est vrai, j'avoue. Ou pas.
Et oui, donc c'était ce recours en justice, et bah elles ont fini par obtenir gain de cause. Mmh. Et donc, c'est presque une décision sans précédent, parce que c'est le plus gros montant versé pour ce genre d'affaires en Californie. Mmh. Et donc c'est pas chaque employé concerné ne va pas toucher 10 millions de dollars, hein. C'est 10 millions de dollars qui vont être répartis sur toutes les employées femmes entre 2014 et 2019, et donc en fonction de l'ancienneté, de l'importance du poste, etc., etc.,
les compensations seront...
Non, justement, c'est pas précis à ça.
D'accord. Ok.
Mais bon, on pense pas qu'il y en ait 500, quoi.
Et oui, c'est aussi une réponse à ce qui était installé comme étant décrit comme étant une broculture, tu sais, un truc entre couilles, un peu beauf, hein, faut dire ce qui est.
Entre potes bien beuvrés.
Riot avait dit déjà dès l'année dernière qu'ils allaient commencer à prendre des mesures pour mettre un terme à ça, mais là au moins maintenant c'est clair, c'est une décision de justice et c'est bien pour les femmes qui avait eu à subir ça. Et après, pour être totalement honnête,
oui, elle déplore quand même que... Elle déplore quand même que les entre guillemets les vrais responsables qui auraient dû sanctionner ceux qui pratiquaient ce genre de choses, soit toujours là et que.
Bah, comme d'habitude, quoi.
Et que la justice est passée à coups de millions, mais que, effectivement, ça peut encore arriver parce que.
Ouais. Ça a le mérite de créer un précédent, au moins.
Oui, voilà, c'est ça.
Ouais, peut-être que Riot, avant de repayer.
Riot, c'est comme League of Legends.
Ouais,
hein,
avant de repayer 10 millions de dollars de trucs comme ça, ils vont peut-être faire plus attention à ce qui se passe. Mais ce que je voulais dire, c'est que là, c'est Riot qui a été condamné, mais ce genre d'ambiance un peu malsaine,
partout,
un peu désagréable, il y en a partout.
Il y en a tellement
et
partout.
Et dans le jeu vidéo, c'est pas vraiment pas
milieux,
une exception.
Oui,
dans tous les milieux, mais enfin.
Tu parles du cinéma, du jeu
le,
vidéo.
Le nombre de fois dans des events ou dans, enfin, où j'ai entendu des trucs, tu te dis mais putain c'est la beaufrie atomique quoi. Et donc tout le monde n'est pas condamné malheureusement, mais c'est bien que les langues se délient progressivement et que,
ah bah là,
et
depuis,
que ça mène à ces choses.
Depuis 2-3 ans, c'est clair que il faut vraiment faire attention à ce qui se passe dans les boîtes parce que ça rigole plus trop maintenant quoi. Ça c'est certain. Ok, bah tant mieux pour elles en tout cas. Voilà, elles ont eu gain de cause. On va partir avec un gros chèque et on va pouvoir trouver un
et
boulot.
Nous, je pense
dans
que
un
ça,
plus
ça
calme.
Peut nous motiver à nous liguer contre Trace pour qu'il arrête.
Exactement.
On a déjà un témoignage audio là en l'occurrence.
C'est vrai.
Qu'il
ouais,
a un peu
odieux.
Puis le moment où tu nous appelles cocotte et tout, enfin tu vois, en mettant les pieds sur la table.
Par contre, tu parles pas des gens,
c'est ça la presse.
Je vous mets des coups de latte. Ça c'est. Ça,
okay.
Non, ou quand tu viens à côté de Plume et que tu mets tes pompes toutes mouillées sur,
sur
le radiateur.
Ah oui, ça oui, c'est vrai.
C'est normal, elles sont mouillées.
Un peu abusé quoi.
Ah oui, c'est vrai.
J'ai pas de radiateur à côté de moi. Je n'ai pas le choix, petit Plume. Parfait pour ce fail, donc voilà, donc Riot condamné à payer. Et quelque part, bah, ce n'est que justice, hein, mine de rien. Donc attention, passons tout de suite maintenant à la rubrique il y a 10 ans sur Gameblog. Mon cher Thomas, que s'est-il passé il y a 10 ans sur Gameblog?
Plein
sur
de
le
choses.
Site internet.
Plein de choses assez rigolotes à déterrer 10 ans plus tard, de la voyance, de la clairvoyance ou pas. Et on commence avec une prédiction. Une fois de plus, on a l'habitude de le citer dans les podcasts et en tout cas dans cette rubrique. C'est le PDG de Square Enix de l'époque, Yoichi Wada, qui nous théorisait la mort des consoles physiques pour dans 10 ans, donc c'est-à-dire là maintenant 2019.
Voilà, bah c'est fini.
Donc il reste. Bah,
ceci dit,
il reste un mois. Donc,
Au moment où c'est sorti avec Stadia. Stadia est sorti.
Oui, mais bon,
il a failli avoir raison.
Stadia n'a pas encore tué le marché des consoles physiques.
Certes.
En tout cas, lui imaginait en 2009 que dans 10 ans, donc à savoir aujourd'hui, eh ben, on serait passé complètement au network, donc au jeu en réseau, et qu'on n'aurait plus besoin de consoles hardware physiquement présentes. Et on se demandait à l'époque si l'histoire lui donnerait raison ou si c'est plutôt feu Satoru Iwata qui lui imaginait plutôt un remplacement complet d'ici à 20 ans, donc plutôt en 2029. Bon, à moins que d'ici la fin décembre il se passe beaucoup de choses, on sait qu'a priori pour l'instant Yoichi Wada n'était pas forcément très clairvoyant.
Non,
après.
Ça peut tromper de 10 ans peut-être, effectivement.
Après, je pense qu'au cours des dernières années, on va dire juste avant le début de cette génération, je pense qu'ils y ont songé. Peut-être pas tous, mais je pense que certains se sont dit est-ce que c'est pertinent de continuer à faire des consoles au sens traditionnel du terme. Et on a bien vu ce que Microsoft voulait faire au début, hein, avec la Xbox One. Ils avaient quand même une vision très connectée du
et
truc.
Et très verrouillée.
Ouais.
Oui, parce qu'ils avaient la technologie déjà que les autres n'avaient pas forcément. Ils étaient vraiment en avance sur les autres. Ils voulaient avoir un coup d'avance en fait.
Et là, ils ont un peu changé leur fusil d'épaule. J'ai l'impression que le côté dématérialisé, cloud, etc. Pour l'instant, en tout cas, c'est vu comme un complément d'une expérience console plus classique. Et c'est bien en fait. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir le choix. Et pour l'instant, en tout cas.
Mais
de pas obligé de faire
l'un ou l'autre. Je suis d'accord avec toi.
Tu avais rapporté, je crois, Romain, il n'y a pas très longtemps, les déclarations de Karim Shroudi de chez Microsoft qui justement parlait du xCloud et qui le qualifiait justement comme un espèce de complément en précisant bien que les consoles physiques allaient continuer d'exister en parallèle de tout ça, donc bon ben bah, rendez-vous dans 10 ans.
Et même Phil Spencer a dit qu'il imaginait qu'il y aurait encore plusieurs générations de consoles.
Oui, c'est ça, c'est pas seulement une seule, mais effectivement peut-être 2 ou 3 ou voire 12.
Ensuite, il y a un autre pari sur l'avenir, en l'occurrence, là c'est Ubisoft qui misait sur ce qu'on appelait encore à l'époque eh bien, le projet Natal
ouais.
Qui est donc devenu Kinect comme chacun sait, et Ubisoft toujours dans les bons coups, toujours prêt à dégainer un petit peu des nouveautés pour épouser les nouvelles technologies comme les lapins crétins et Red Steel au lancement de la Wii, et bien là en l'occurrence, on vous racontait, en tout cas Julo vous expliquait qu'ils étaient à donf sur Kinect, qui ne s'appelait pas encore donc Kinect à l'époque, et qu'il y avait plein plein de projets chez Ubisoft qui étaient en gestation pour tirer pleinement parti de la surpuissance de cet objet qui aura, comme chacun sait, contribué à un petit peu plomber le lancement de la Xbox One. Et bah, finalement, par rapport aux promesses que Julo vous faisait à l'époque, que Julo rapportait, à savoir que il y avait 10 projets chez Ubisoft dans les cartons, dont pas mal qui étaient prévus pour les 6 premiers mois de la commercialisation de Kinect. Bon, on sait que c'est pas exactement ce qui s'est passé. Il y a eu un petit peu moins de jeux que prévu, et surtout en dressant un petit peu la liste des jeux Ubisoft qui sont sortis.
C'est ce que j'essayais de...
J'en ai 3 en tête, moi, perso. Michael Jackson Experience, Just Dance et Child of Eden.
Ah bah alors, Just Dance, tu peux le décliner parce qu'il y a eu Disney Party, Greatest Hits,
oui,
2016,
parti.
2017, 2018, ouais. 2019. Your Shape, fille, Fitness Evolve.
Ah oui, Your
aussi,
Shape, c'est vrai, tiens.
Ouais,
oui,
tout à fait. Toi qui es un corps d'athlète maintenant,
ton Ring
Fit, tu devrais le savoir. Et un Marvel Avengers Battle for Earth.
Ah oui, c'est vrai. C'était une sorte de rail shooter, enfin, tu sais, un jeu où tu te déplaçais pas, mais c'était des ennemis à abattre en faisant des mouvements de coups. Si ça avait même été annoncé pendant une conf 3, je sais plus de quelle année, mais. Oui, ça me parle vaguement. Ouais.
Donc voilà, visiblement, vous les avez tous oubliés, ce qui montre que.
Moi, j'ai pas oublié Disney, machin truc là.
Ubisoft, en fait, parce que j'ai tellement joué sur le bon cheval.
Ce que j'ai surtout, quand je pense à Natal, ce qui me revient en premier à l'esprit, c'est Milo.
Évidemment.
Qui est jamais sorti. Oh, donc,
alors ça, c'est le cheatage absolu.
Ça et la démo Star Wars qui était.
Mais qui sur le papier avait l'air tellement ambitieux.
Maintenant, avec le recul, t'as pas le droit de faire un truc comme ça, c'est juste scandaleux.
Oui, bah.
Sauf quand ça vraiment immonde de faire ça, quoi. Tu vends un truc qui a l'air extraordinaire. Mais qui sortira jamais parce que c'est du pipeau absolu. Enfin,
le Star Wars,
ça fait pitié.
Ils te font une vidéo teaser, tout le monde est sur le cul, et quand le truc sort, c'est un jeu de danse avec des mini-jeux.
Oui, voilà,
tu peux soyez pas
faire ce genre de truc, c'est dégueulasse, quoi. C'est n'importe quoi. Enfin, aujourd'hui, ça passerait pas, ils se feraient défoncer. Hein. Alors là, c'est clair et net que tu fais un truc comme ça. D'ailleurs, Molineux, on l'a pas revu depuis, donc bon.
Mais si, il a fait son.
Si, ouais,
c'était ça.
Ouais, il est chuté un petit toucan, toujours. Il fait ses petits jeux. Ses petits jeux chelous.
Le truc que tu devais creuser dans le cube, là, tu sais.
Oui, c'est ça.
Ouais. Jusqu'à temps d'être le dernier.
Je l'avais fait un peu, ça aussi, mais c'est n'importe quoi.
D'ailleurs, je crois que le mec qui a gagné, il a pas vraiment eu tout ce qu'il avait
promis. Oui, c'est ça, exactement.
Il a piloté un jeu pendant 6 mois, justement.
Comme l'appelait Raon, Monsieur Febreze, c'est bon, quoi. Okay. C'était un génie à une époque, mais depuis, au secours. Bref.
Et pour terminer, une nouvelle bien moins réjouissante en l'occurrence, puisque il y a 10 ans ouvrait un nouveau petit studio français qui s'appelait Punchers
Impact.
Et là, comme ça, ça vous dit peut-être pas grand-chose.
Si, à fond. On en avait parlé dans Jeux Vidéo Magazine parce qu'ils présentaient un jeu dont j'ai oublié le
Crasher.
Nom. Crasher, voilà, un jeu de voiture compétitif qui devait être une bonne.
Qui devait tout cracher.
Qui devait tout tuer. Et c'était Mindscape.
Ah oui, c'était Guillaume Descamps.
C'était Guillaume Descamps, absolument.
Il est adorable, ce mec, en plus. Et... C'est lui qui a fait le tour du monde, je crois, en vélo après.
Ok.
Des années après. Non, mais c'est vrai.
Il a voulu s'enfuir et il voulait.
Non, mais ce qu'il a fait, c'est hallucinant. Enfin, oui.
Et ouais, ça avait pas marché du tout. Voilà.
Et en fait, ça a tellement pas marché Crasher que ça a été leur seul et unique jeu, en fait. Et là, on vous parlait de l'ouverture du studio en décembre 2009. Et il se trouve que, en mai 2011, Punchers Impact fermait. Entre-temps, les premiers fondateurs avaient lancé un nouveau studio qui s'appelait Birdie's Road, qui donc lui a ouvert ses portes en septembre 2010 et qui a fermé en août 2011. Donc beaucoup,
quasiment en même moment.
Beaucoup d'échecs assez rapides, malheureusement, pour ces nouveaux studios français.
Ça fait des lignes founder sur le CV, sur LinkedIn.
Sur LinkedIn, ouais. Donc voilà, évidemment on en rit, mais il y avait quand même 35 à 40 personnes se sont retrouvées sur le carreau. Mais tout ça pour dire
ça
que
arrive,
rien n'est jamais garanti dans la vie.
Tout à fait. Parfait,
voilà.
Parfait. Merci beaucoup Thomas pour.
Si c'est pour parler de choses comme ça, hein, tu peux te les garder.
C'est nous ce qui fâche, n'est-ce pas?
Estimez-vous heureux, monsieur Mahut, de votre position.
Exactement.
C'était ça la morale.
Bah écoutez, moitié route là du podcast, donc on va passer au thème number one, les amis! Générique! Non, je déconne. Le thème numéro 1 avec Life is Strange 2, n'est-ce pas?
Ouais.
L'épilogue de cette
saison. Le dernier épisode, ouais. Wolves, qui est paru ce 3 décembre.
Tout à fait. T'as
du
peur,
coup,
hein?
Non.
C'est vrai?
Non, absolument pas.
C'est toi qui l'as testé, tu les as tous testés en fait.
Oui.
Et donc, du coup, t'as kiffé?
Bah ouais. Voilà.
Merci, okay. Plume. En place au thème
cool,
2.
Hein.
Pas mal de thèmes numéro 1.
Bah non, mais je fais partie, comme beaucoup de monde dans le monde, de gros fans de la première saison de Life is Strange. Et forcément, avec la Life is Strange 2, on est obligé d'attendre quelque chose qui soit à peu près au même niveau, qui suscite le même intérêt, qui provoque les mêmes émotions. j'avais trouvé le premier épisode vraiment, vraiment super. C'était un bon départ. Et les suivants, à chaque fois.
Bah, c'est le cinquième. Hein,
ouais, on en est au cinquième et au dernier. Et à chaque fois, ils avaient réussi à trouver quelque chose pour renouveler. Il n'y a pas eu de vrai épisode mou, comme ça peut arriver dans les contenus épisodiques comme ça, où t'as 5 épisodes, ou en général l'épisode du milieu.
Ah, dans les Walking Dead, c'est typique, hein. C'est très bien, et tout d'un coup, c'est pourri.
T'as pas de remplissage pour dire là, vraiment, chaque épisode, c'est un moment de la cavale de deux frangins, donc Sean et Daniel Diaz, qui ont été obligés de fuir Seattle après qu'un flic ait tué leur père et que
a tué leur père
et que ça ait un peu dégénéré parce que le plus petit a des pouvoirs et que quand il ne les contrôle pas ça fait un peu tout péter autour de lui. Et donc chaque épisode raconte une tranche de ce voyage qu'ils font jusqu'au Mexique où le grand frère essaye d'être un père en même temps pour le plus petit qui est toujours un enfant mais qui doit aussi apprendre à contrôler ses pouvoirs. Il y a une évolution comme ça de leur relation qui est pas évidente, une évolution aussi pour le joueur qui doit essayer de s'adapter, de faire des choix aussi en fonction de ce que lui trouve juste, parce que le gamin qui a des pouvoirs, Daniel, c'est bien qu'il ait des pouvoirs mais faut pas qu'il les montre, et faut peut-être qu'il les utilise pas du tout, faut peut-être qu'il les utilise à des moments précis. Et ça, c'est des choix qu'on va avoir à faire pendant toute la saison jusqu'à ce dernier épisode qui commence de manière très douce, vraiment très calme. On est dans un campement de marginaux, de personnes qui sont en Arizona et qui arrivent à planquer les deux gamins, mais l'objectif ça reste toujours le même pour eux, c'est d'aller au Mexique et d'être libre là-bas, parce que aux États-Unis tout ce qu'ils ont traversé jusque-là, déjà ils ont les flics au cul et ils ont rencontré des gens pas très recommandables. Voilà, il y a beaucoup de racisme à leur égard, entre autres. Ils ont aussi, dans l'épisode précédent, ils avaient rencontré aussi, enfin, ils avaient
été endoctrinés
par une espèce de secte assez problématique.
La secte.
Et donc, il y a cette tentative de fuite vers le Mexique. Alors, je vais pas en dire trop non plus, mais évidemment ça se passe pas comme prévu. Et on va avoir des choix encore une fois à faire pendant ces dernières minutes. Et pour le cinquième épisode, c'est toujours aussi bien écrit et super bien interprété. Les deux mômes qui jouent sont vraiment très bons. Il y a un autre personnage que je dirais pas, parce que si vous avez pas joué au jeu,
oui, faut pas spoiler.
Je peux pas trop en parler, mais une figure féminine dont j'apprécie beaucoup la voix. Que j'ai trouvé très apaisante, et le personnage qu'elle incarne devrait vous convaincre aussi, même si on n'est pas forcé d'être quelqu'un de vraiment bienveillant à son égard, eu égard au passif qu'on peut avoir avec elle, mais ça c'est encore une autre histoire. Tout ça pour dire que donc la dernière ligne droite, elle commence vraiment tout doucement, et puis tout d'un coup, comme dans les épisodes précédents, il y a une espèce de changement de rythme, de changement de ton qui fait qu'on est rapidement choqué en fait par ce qui nous arrive, que on se disait l'humanité finalement ça va, mais en fait non, l'humanité ça va pas du tout, surtout aux États-Unis, et c'est vraiment cette critique, une critique vraiment de l'Amérique, mais ça peut concerner le monde entier, hein. Mais ça passe par tous les problèmes politiques qu'il peut y avoir aux États-Unis, aux décisions qui ont été prises aussi par un certain président.
Encore en activité, tu veux dire?
Absolument. Et qui trouve ici une réalisation. C'est plus grinçant que la première saison de ce côté-là, qui était beaucoup plus série adolescente, mélancolique, que là où c'est vraiment des thèmes, comme je dis, très, très politiques et très engagés. C'est vraiment très bien amené à chaque fois. Et le dénouement est un déchirement. Il y a le dernier choix à faire juste avant que ça se conclue vraiment est très difficile, parce qu'on n'est pas rassuré de ce qui va se passer par la suite, quelle que soit la décision. Bon, j'ai vu les deux, j'en ai vu deux des fins. Voilà, je vous le dis.
Ah, pas mal.
Dans les deux, il y a moyen de chialer.
C'est vrai.
Voilà, il y a moyen de chialer dans les deux cas.
Ça se finit un peu comme la première saison, du coup, où t'effaces vraiment un choix qui va tout changé au dernier moment.
Oui.
Ok.
Oui, oui, oui. Enfin, après, c'est pas aussi.
Non, je peux
pas. Oui, non, mais. Faut pas que j'en dise trop parce que.
C'est pas aussi intense, mais il y a un vrai choix qui se pose à toi.
Ça, alors, ça peut être considéré comme intense parce que la relation que tu vas avoir là est très différente par rapport à ces deux personnages et par rapport au fait que c'est quand même deux membres d'une même famille. Mais c'est vraiment. Ouais, c'est quand même assez. C'est quand même assez méchant ce qui peut arriver. Et donc ça fait que du coup, encore une fois, avec Life is Strange, Dontnod a réussi quelque chose de vraiment très bien. Dès que c'est eux qui touchent à ça, ça va. Alors je parle pas de Before the Storm qui était c'était bien pour les fans, mais sans plus. La première saison qui était fabuleuse, même si elle abordait d'autres thématiques. Là vraiment, c'est un road trip qui est très agréable. Du début à la fin, chaque épisode est vraiment très bien amené, et le cinquième, c'est une conclusion. Je n'irai pas jusqu'à dire parfaite, parce qu'on peut toujours, trouver des choses qui n'iront pas. Alors, je pense notamment aux gens qui aiment pas spécialement les jeux narratifs où tu ne fais que choisir, où t'as pas vraiment d'interaction ou de réflexion qui amène une partie vraiment ludique à l'expérience. Là, le côté ludique, c'est juste faire des choix. Bon, admettons.
Mais après, t'arrives au cinquième épisode de Life is Strange, tu sais quand même bien, ouais, que bien c'est ça de la saison 2 en plus. Hein.
Mais je me dis à un moment que peut-être.
T'as le mec qui découvre maintenant que c'est que ça.
Oh, je comprends pas, ça décolle pas là.
Non, c'est pas ça, c'est que. Enfin, moi je veux bien qu'on. Je pense à certaines personnes qui vont se dire que c'est bien de se balader dans des environnements et de voir des objets et tout, mais il y a peut-être un moment où tu te dis, ah bah tiens, j'ai peut-être, je sais pas, amené un peu de réflexion, un petit peu d'observation, un
des
petit
puzzles,
peu
des puzzles, tu veux dire, voilà, des trucs comme ça.
Non, peut-être pas forcément des puzzles, mais quelque chose qui te fasse un peu plus cogiter, quoi. Après oui, c'est un jeu narratif, c'est
oui, mais là t'as l'air de dire que c'est un peu politique et qu'il y a des thématiques un peu plus sérieuses, ouais. Donc quelque part, enfin, tu cogites, mais sur ce qu'on te propose en thématique finalement.
Oui, complètement, mais après, voilà, le fait est que ça reste une sorte de film interactif, mais un très bon film interactif.
C'est écrit par des Français ou par
oui,
des...
Oui, bien sûr, oui.
Ah, parce que, enfin, ouais.
Tout est français.
Toujours plus délicat de critiquer de critiquer la société américaine quand tu la vis pas vraiment de l'intérieur ou que tu.
Oh, oui, mais tu sais pas. Je pense que si tu y joues, tu comprendras que c'est pas c'est pas une motivation à cracher sur l'Amérique.
C'est pas taper pour taper, quoi.
C'est vraiment dénoncer certaines faiblesses, certaines extrémités aussi qu'on peut trouver aux États-Unis et qui sont totalement dans l'actualité. Je pense qu'on en entend tous parler, qu'on le veuille ou non, notamment en ce qui concerne le racisme anti-mexicain, qui est très exprimé notamment en haut du gouvernement américain, notamment. Et
je vois pas en quoi construire un mur à la frontière, peut-être interpréter.
Et aux frontières même de l'Arizona, du Texas et des autres États qui sont
c'est contre
qui
les inondations,
collés,
en fait.
au Mexique.
Les fameuses inondations mexicaines.
C'est venu du Mexique, ouais.
Mais après, bon, que ce soit fait par des Français ou autres, la motivation et le raisonnement est à chaque fois très juste.
C'est universel, quoi, de toute façon.
Tout à fait. Donc, encore une fois, grosse réussite pour Dontnod. Peut-être que ce sera moins. Ça va susciter peut-être un peu moins d'engouement que pour la première saison, parce que c'est pas deux filles qui
mais
sont.
Justement, le duo là par rapport aux deux filles, j'ai oublié leur nom d'ailleurs.
Bah, regarde sur Google, hein, t'as ton téléphone à la main. C'était
Chloé et Max.
Max.
Non,
là, exactement.
On jouait Max.
Et ça change beaucoup de choses ou pas forcément
C'est le rapport qu'ils ont, hein. Là c'est pas deux copines potentiellement amantes, c'est un grand frère et un petit frère dont le petit frère a des pouvoirs.
T'as tout spoilé, d'ailleurs on les voit à l'antenne.
Voilà, et ils sont, alors les deux, ils sont vraiment fabuleux en termes d'interprétation, je le redis, hein. Le petit en particulier, évidemment, parce qu'il est petit. Mais
n'importe quoi.
Bah c'est pas facile la vie.
Attends,
pour les petits. On en a un, c'est deux même sur le plateau, pardon.
C'est vrai.
Donc bah ouais. Donc,
tu connais plus petit monsieur.
Ouais, exactement, monsieur Frit aussi. donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire de. Je peux pas dire beaucoup de choses.
Oui, parce que
plus.
Ça reste qu'un épisode après. Parce sur toute la saison, ça se tient bien comme tu disais. Il y avait pas de.
Oui, puis je vais pas non plus vous spoiler tout ce qui se passe.
C'est ça le problème, c'est qu'en fait on parle d'un jeu, mais si t'en parles trop.
Ah si, je peux quand même dire qu'il y a une jolie petite surprise pour les fans de
c'est
la première saison dans le cinquième épisode.
T'as un easter egg de fou ou pas?
J'en dis pas plus.
C'est vrai?
Ouais.
Du coup, ils sortent l'intégrale là dans pas longtemps, j'imagine.
Oui, elle doit arriver là. Si elle est pas déjà sortie, elle arrive.
Ok.
Donc, ouais. Je crois qu'elle est disponible. Au moment où le podcast est écoutable et visionnable.
D'accord. Bah écoute.
Très bon.
Et ça reste du même tonneau au niveau technique et tout ça, ouais, ça change pas
grand-chose. Très Life is Strange quand même.
C'est un peu comme Shenmue, ouais. C'est très Life is Strange. Bah si, il y a des efforts qui ont été faits quand même.
C'est très lisse, même, je dirais.
Pour que la direction artistique reste la même, mais que techniquement ça ait l'air un peu plus propre et un peu plus reluisant. La lip sync est peut-être pas extraordinaire, mais elle est enfin, au moins les lèvres bougent de manière différente par rapport à la saison 1. De toute façon, tu joues pas à ça pour la technique, hein. Tu joues pour l'atmosphère, l'histoire, les musiques. Aussi, hein,
la musique, de
Jonathan Morali,
qu'est-ce qui est jaune,
le leader de Sid Matters, qui a encore fait une super bande son. C'est pour tout ça que tu joues. Voilà, je vois que t'es convaincu, donc.
Et ça se passe.
Je pense surtout à la blague qu'il vient de faire. Ah,
pas
secondes.
Du tout. T'as vu, il arrive à lancer des pierres.
Ouais.
C'est un génie, ce mec. Bah voilà, vous allez tous y jouer, je crois. Et je vais en remettre tout de suite. Hein.
Bah, je me pose la question.
Vous avez fait la première saison ?
Moi,
j'ai fait la première saison.
Moi, oui,
non,
justement.
Mais j'ai toujours eu envie.
Mais j'ai pas fait Before the Tiep.
La fin m'avait vachement déçu. Enfin, j'avais pas du tout aimé la fin de la première saison. Mais là,
parce que t'étais dégoûté.
Non.
T'avais pas fait le bon choix, c'est tout.
Ah, si, j'ai fait le choix à aller vous faire foutre. Je fais ce que je veux.
Tu l'as fait 5 fois.
Oh, bah voilà aussi. Mais si tu fais cette fin-là.
Bah oui, mais quand on te propose un choix en disant, hé, t'as pas le choix, faut prendre celui-là, bah moi, je marche pas comme ça.
Ça te fait chier.
Mais là, pour le coup, la thématique politique, est-ce que j'en avais vu ? J'y ai pas joué du tout, mais j'avais vu une présentation l'année dernière.
T'as même vu la fin en regardant sur mon écran.
J'ai vu une des fins, c'est vrai. Exactement.
Une des 4 fins.
Avec le fameux Sam. Oui, c'est vrai, mais du coup, j'ai pas besoin de la faire puisque je vais déjà commencer.
Oui, t'as tout vu, donc c'est bon.
C'est la fin qui t'a fait chier, du coup, t'as pas envie de la refaire.
Non, mais j'avoue que ça me tente en termes de thématique vachement plus que la première.
Donc t'as fait Captain Super Sleep en plus.
Et j'ai fait Captain Super Sleep, exact. Qu'on a croisé d'ailleurs dans le trailer.
Et qu'on croise aussi dans le jeu, mais chut.
Oh, bah voilà, ça y est, t'as spoilé.
Mais c'est le savait, oh putain. Ce
sera dans le prochain Avengers.
C'est vrai.
Super, ça serait bien, putain, t'imagines. Bah voilà, on a fait le tour en fait de ce thème numéro 1 qui était un peu court, mais c'est normal, hein, c'était épisodique.
Mais vous pouvez foncer.
Voilà, ainsi se termine Life is Strange 2. Et on sait pas s'il y aura une suite potentielle ou ça sera un tout autre jeu, je crois, hein, il me semble.
Bah, si, ça m'étonnerait pas qu'ils fassent un Life is Strange 3 parce que vraiment, il faut qu'ils
en fassent. En fait, c'est autre chose là, récemment.
Mais si, Tell Me Why, X19, mais qui a rien à voir.
Oui, c'est ça.
Qui est encore une autre.
C'est complètement différent, exactement. Parfait, parfait. Bah écoute, on va passer au thème numéro 2 tout de suite. Hein,
le Capcom avec, Stick.
le Capcom SNK Stick, Neo Geo Arcade Stick. Avec Pro. Thomas qui l'a retourné dans tous les sens, comme tu disais tout à l'heure.
Exactement.
Et bien voilà, ça marche moins bien.
T'as un quart d'heure, 20 minutes, moitié route devant toi.
Oh bah ça suffira largement. Donc après, effectivement.
Alors c'est quoi ce truc ?
Après le Capcom Home Arcade qu'on vous avait présenté.
Omar ?
Y a pas très. Oui.
Ouais.
Omar,
Capcom Omar Sy,
si tu veux, ouais. Bah, fais un jeu de mots du coup avec le nom de cet ustensile qui s'appelle donc le Neo Geo Arcade Stick Pro. Attention.
Quelle classe.
Qui est sorti le 11 novembre dernier au Japon et qui est arrivé chez nous là début du mois de décembre,
exact.
Et qu'on a reçu avec joie à la rédac et que du coup j'ai pu essayer. Alors d'abord, comme vous le voyez là en l'occurrence, c'est un stick arcade en soi, tout ce qu'il y a de plus classique, donc un stick solo. Pour le coup, vous n'allez y jouer que tout seul. C'est l'un des principaux reproches que j'aurais à lui faire. Mais il embarque, comme son équivalent chez Capcom, une vingtaine de jeux. Mais alors là, pour le coup, on est sur une thématique vraiment très 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 précise et monothématique en l'occurrence. Ce sont 20 jeux de versus fighting. Puisqu'on rend vraiment hommage à la Neo Geo. Je vais pas tous vous les citer, hein, mais vous avez du KOF dans tous les sens.
T'as
95,
KOF,
97, 2000-2002. Il y a de très bons épisodes. Fatal Fury 3, Garou Mark of the Wolves.
Garou, en tout cas.
Oui, Garou, ouais. C'est le nom de la série, Garou Densetsu.
Moi, je dis Garou.
Bah, voilà. Mais Garou Mark of the Wolves, il a pas 20 ans, lui ?
Si. Bon, un truc comme ça, mais il est ressorti sur Switch il y a pas très très longtemps.
Ouais,
ça reste un fantastique jeu de versus fighting.
Je suis d'accord.
Du Samurai Spirit, s'en veux-tu, en voilà.
Évidemment.
Le 2, le 3, le 4, le 0 Special. De Last Blade 2, qui est toujours aussi fabuleux.
Mais t'avais dit que tu les citais pas tous là ?
Oui, non, mais c'est pour mais
on
donner.
Fout,
voilà.
Vas-y, dis.
Tout, voilà, tout ça pour dire que vous avez 20 jeux de versus fighting embarqués dans ce stick. Qui propose quelques spécificités. Alors déjà en termes de design, on est sur quelque chose qui est plutôt sympathique. Il est beaucoup plus léger que la version de chez Capcom.
Et
en
puis,
l'occurrence,
qu'est-ce qu'il peut montrer quand on le voit comme ça, hein.
Il est destiné à un joueur, donc vous pouvez très bien le poser sur vos genoux, le brancher à une télé. Par contre, le truc qui est un petit peu dommage, c'est que dans la jolie boîte que vous avez là au pied de plume, vous avez un câble USB-C pour le brancher sur votre PC ou y mettre un secteur et le brancher directement, mais vous n'avez pas de câble HDMI, ce qui est un petit peu problématique.
Alors, bah,
vous allez me dire, on en a partout, etc. Mais en l'occurrence,
oui, mais
Il faut un petit peu de recul pour véritablement bah oui, profiter et ça aurait pas été mal de proposer un HDMI assez long en l'occurrence. Donc si vous n'en avez pas, moi je vous conseillerais plutôt de vous en équiper parce que jouer juste devant la télé à genoux,
c'est
vite relou.
L'idée c'est que toi t'as un vidéo proche chez toi et le vidéo proche il est forcément derrière toi pour diffuser sur le mur. Donc ouais, forcément la Neo Geo machin là.
C'est ça qui me rend ouf. Tu peux brancher le truc ça, sur une Neo Geo Mini.
Oui.
Et ce qui fait que tu peux jouer avec ce gros stick devant le tout petit écran.
Exactement. Exactement. Mais alors, non seulement tu peux le brancher sur la Neo Geo Mini, mais tu peux aussi le brancher sur un PC. C'est-à-dire que.
Oui, bah ça tant mieux.
Il peut aussi te servir de stick arcade tout court, en fait.
Tu peux l'utiliser sur d'autres jeux non.
Ouais, tu peux le brancher sur ton PC et t'en servir.
Comme une manette normale.
Si t'as envie d'avoir un complément, enfin de l'utiliser autrement que pour les 20 jeux qui sont embarqués, ça peut te servir de stick tout court.
Enfin, surtout pour les jeux de combat.
Oui, bah ou les jeux d'arcade, etc.
Oui, d'arcade.
Le problème, c'est que c'est franchement pas le meilleur stick arcade du marché. On n'est pas sur un truc complètement quali. Enfin, le stick coûte 159€. Pour ce prix-là, on peut se payer un stick arcade qui est beaucoup plus massif, qui tient, qui reste en place et avec un meilleur aussi retour, que ce soit au niveau du stick et des boutons. On a une petite sensation de légèreté. On n'est pas sur le même niveau de finition que les Sanwa du Capcom Home Arcade. Et dans la liste des reproches, puisqu'on en est encore là, il y a un petit souci en fait. Alors, l'interface, elle est assez sommaire. On sent qu'ils n'ont pas forcément passé un temps fou et je pense que Poufy, qui est plus rapide que l'éclair, va pouvoir vous montrer
l'interface,
un extrait en vidéo. Menu qui rappelle un peu celui de la Wii, j'ai envie de vous dire.
Avec un fond jaune.
Complètement, ouais.
Avec un fond jaune,
une
police. Voilà, ils n'ont pas cherché bien bien longtemps. Là, en tout cas, vous avez du coup tous les jeux qui sont
ferme ta gueule en bas à chaque fois.
Embarqués. avec quelques.
Bah, je sais pas.
Quelques options.
Non, ça veut dire fighting, ça.
Non,
je
non,
pense.
Ça veut dire ferme ta gueule.
Oui, j'avais pas vu qu'il y avait FTG partout, c'est vrai, mais bon.
Voilà. Oui, pardon, Thomas, je t'ai coupé.
Et donc, à l'intérieur de chacun de ces jeux, en fait, vous pouvez remapper notamment les boutons. Et ce qui est un peu dommage, si vous êtes un peu fan d'SNK et que vous avez une Neo Geo chez vous, vous avez l'habitude d'y jouer avec une disposition horizontale où vous avez les quatre boutons qui se succèdent A, B, C, D. Là, on voit toutes les langues qui sont disponibles.
Portugais.
Le problème, c'est que de base, comme vous le voyez sur l'objet, les boutons ABCD en fait sont disposés en carré, ce qui n'est pas la prise en main classique et habituelle des jeux Neo Geo. Donc il faut penser à remapper systématiquement les boutons à l'intérieur des jeux, c'est un petit peu dommage. Tout comme les jeux sont de base mis en japonais. Donc il faut aussi penser à les rebasculer en anglais. C'est un petit peu pénible en fait parce que
attends,
du coup
tu le fais pas une seule fois dans les menus et après tout est.
Non, c'est chaque ROM en fait doit être reparamétré. Okay. Voilà, on voit juste à l'écran grâce à Poufy que peut-être il y a des jeux qui vont se débloquer dans l'avenir, allez savoir.
Ça se trouve, il y a 500 jeux dedans en fait et
on ne sait pas. Tu peux le connecter à internet le truc
Je ne crois pas, mais tu peux le connecter à un PC donc.
Non, mais c'était pour savoir si tu pouvais ajouter des jeux dessus ensuite,
en Wi-Fi.
C'est marqué 20 jeux préchargés donc peut-être que.
Il y a déjà 20 jeux en tout cas pour l'instant et vous avez une petite notice à l'intérieur.
Oui, ils n'auraient pas précisé le fighting à chaque fois sur chaque jeu si je n'en rajoutais pas.
On imagine du run and gun ou des choses comme ça qui devraient sans doute arriver par la suite. En tout cas, pour l'instant, c'est vraiment 100% versus fighting.
Et les ronds clairs qu'on voit là, c'est les niveaux de difficulté
Non, tu as des slots pour sauvegarder en fait tes parties.
Ah, d'accord,
ce qui est quand même assez conseillé parce que c'est l'un des autres reproches que j'ai à faire. Là où on avait un bouton de crédit sur le Capcom Home Arcade, là vous n'avez rien du tout. Donc vous avez des versions arcade, véritablement arcade, avec je crois 4 crédits de base dans tous les jeux. Et grosso modo, vous pouvez pas en rajouter. Donc
c'est
un peu chiant. Du coup, il faut plutôt fonctionner avec des sauvegardes assez régulièrement. C'est un peu pénible parce que t'as pas forcément envie de jouer comme ça. Et on a 8 boutons en façade, on a 4 boutons sur le côté pour les menus d'options, etc. On peut même régler un espèce d'autofire. Ça, c'est pareil, un autofire sur des jeux de baston, pour l'instant, on se dit ça va pas servir à grand chose. Donc il y a sans doute d'autres styles, des shoot 'em up, ce genre de trucs qui vont arriver. Donc il y a plein de petites choses comme ça où on se dit c'est dommage qu'ils aient pas pensé à l'organiser un petit peu mieux. Il y a plein de petits trucs un peu chiant et moi ce que je vous conseillerais de faire si jamais vous craquez, c'est de charger en fait, de sauvegarder chacun de vos jeux avec la config, les boutons mappés comme vous le voulez et en anglais. Mais ça veut dire que à chaque fois que tu lances ta ROM, il faut d'abord que tu charges ta partie et ensuite tu te lances dans le mode arcade. Alors on a différentes options, là voilà vous voyez je crois
non,
un petit réglage
taille de l'écran du jeu.
Grâce à Poufy, on était en 4 tiers et en pixel perfect,
j'ai envie
de dire. On peut le passer évidemment en 16/9 et avec un lissage des familles qui est toujours aussi dégueulasse. Ça, il n'y a rien à faire. Je sais que vous êtes certains dans le forum à bien aimer
là,
ce côté
va.
Un petit peu plus moderne.
Dégueu, hein, là. Mais non, mais moi, c'est, là, c'est lycée. Là.
Moi, je peux pas. Là, c'est lycée.
Moi, ça me dérange pas.
C'est lycée en 16-9e.
Mais
et...
ça floute l'image. C'est...
Exactement.
C'est un petit peu, mais c'est plus agréable.
Mais c'est pas comme ça que.
Oui, bah, je sais bien.
C'est pas comme ça qu'on joue au jeu de baston.
Bah, pour les puristes, c'est sûr. Enfin, que...
Surtout
c'est
que la 2D en pixel art de SNK, elle est juste à tomber par terre.
Oui, évidemment. Ils ont pas besoin de ça.
C'est d'une fluidité, c'est d'une beauté.
Oui, mais c'est proposer les deux.
Ça fourmille de détails. Alors oui, t'as plusieurs modes d'affichage. Chacun y trouvera son compte. Vous pouvez le lisser, le laisser en 4 tiers, mais pff, en l'occurrence, de mon point de vue, vous perdez quand même sur le plan graphique, parce que c'est tellement, tellement beau.
Oui, mais s'ils ne l'avaient pas fait, on aurait dit, mais pourquoi ils n'ont pas proposé ça, machin, c'était
évidemment.
Pas grand-chose à faire, etc.
Et alors du coup, le petit problème qu'il y a par rapport à tout ça, c'est que la sélection
Beach
en
problème.
Soi, elle, est, bon, elle peut être discutable hein, sur certains jeux, Fatal Fury 3, ok, mais il n'y a pas Realbout, pourquoi, enfin, il y a plein de petits trucs comme ça où on pourrait se poser des questions. Le souci, c'est que du versus fighting, tu ne joues pas tout seul chez toi dans ton canapé.
T'as
ouais. plutôt envie d'y jouer avec un pote, de pouvoir doser le truc, de faire des rematchs, etc.
Le fatalisé.
Et bah là, en l'occurrence, il vous faudra acquérir un autre périphérique. Alors,
un autre pote.
Ou un autre pote, un autre stick arcade, ou les manettes de la Neo Geo Mini qui étaient inspirées de la Neo Geo CD, que vous pouvez brancher directement dessus. Vous avez deux ports là en façade pour les connecter, ainsi que des écouteurs. Mais il faut forcément réinvestir dans un autre périphérique si vous voulez jouer à deux, ce qui est quand même un petit peu dommage de mon point de
c'est
vue.
Un peu cool.
Vu la sélection 100% versus fighting, je comprends pas trop que dans l'état actuel ce soit proposé comme ça. Donc voilà, pour 160€, il y a quand même pas mal de petits trucs qui sont pas super bien fignolés.
Bon, si on peut jouer à Art of Fighting, moi je suis content. Hein.
Ah oui, non, puis il est toujours super chouette. Il y a
le
décadrage d'Art of Fighting qui tue toujours la gueule, surtout que le jeu commence à avoir un certain âge aussi. Hein, je crois qu'il est de 93. Il y a une sélection. Non, mais il y a des jeux qui valent vraiment le coup. Vigaro,
l'émulation est bonne d'ailleurs.
Il y a un bon temps de réponse. Il y a une fluidité d'origine qui est toujours là. Il y a seulement des petits problèmes de clipping et de scintillement en fait sur certaines ombres.
Alors, ouais. On voit la différence.
Oh, la version, non mais la version lycée c'est pas possible.
Ah non,
là pour le coup ça va pas trop bien, mais je trouve qu'avec KOF ça allait.
Non, c'est dégueulasse.
Ah, peut-être parce que KOF était plus lisse aussi.
Non, ça fout l'image et on dirait un jeu flash.
Non, mais là, c'est bizarre,
amateur,
là.
C'est immonde.
Art of Fighting, moi j'ai jamais aimé, hein, mais bon, c'est perso.
Quoi ?
Ça a jamais été mon truc.
Mais c'est un de leurs meilleurs.
Non, moi je préfère les KOF.
Ils ont eu le temps de le dépasser.
Ça reste un de leurs meilleurs points.
Ça reste un
mastodonte. Moi, j'ai son truc, hein, mais moi, c'est... tu vois, il arrive même pas à sortir sa boule de fire.
Bah, ton truc, c'est de la merde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Tu connais Todo? Bah voilà, je l'ai gagné.
Ok, le géant Todo aussi, tu connais ou pas?
Ouais.
Donc voilà, juste un petit problème sur les ombres, bah, qu'on va peut-être voir d'ailleurs
c'est un vrai jeu.
Dans KOF 2002. Bref, voilà, il y a des choses qui vont bien. La sélection est quand même plutôt sympa. Il y a. Un stick qui se met sur les genoux, qui prend pas forcément beaucoup de place, qui peut se ranger assez facilement, mais bah voilà, obligé d'acquérir un autre accessoire pour pouvoir y jouer à deux.
Ouais, ça c'est un peu dommage.
Plein de petits trucs, le remappage de boutons, les langues à paramétrer à chaque fois. Voilà, il y a plein de petits détails qui font que pour l'instant, je vous conseillerais pas forcément son acquisition là maintenant tout de suite, parce que la différence de prix avec le stick de Capcom est finalement pas si énorme, on est à 50-60€.
Oui, mais attention, est-ce qu'ils vont en faire beaucoup aussi C'est ça le problème.
Pour
si tu le prends pas maintenant
pas.
Et dans 6 mois, tu dis ah bah il y en a
et,
plus.
Et
hein,
en plus, si vous l'utilisez comme stick arcade d'appoint, c'est pas non plus le meilleur matos qu'on puisse trouver sur le marché. Si vous allez sur des sites spé, vous allez trouver, je pense, à un prix équivalent, du matos quand même vachement mieux fini. Donc, moi j'ai envie de vous dire, attendez pour l'instant, patientez un petit peu, regardez comment ça se passe. À moins d'être un énorme mordu de versus fighting et d'avoir un pote qui va aussi l'acquérir, dans quel cas vous êtes peinard et vous allez pouvoir doser
le truc idéal
dans tous les sens, parce que là on a une sélection qui est quand même super chouette avec des jeux qu'on peut éventuellement découvrir pour la première fois, parce qu'il y en a plein qui sont relativement inaccessibles dans la version d'origine. Mais voilà, petit bémol pour l'instant, j'ai envie de dire satisfaisant, mais peut mieux faire pour le Capcom Arcade Pro. Attendons de voir si
t'as
la sélection...
Quoi, pardon?
Peut mieux faire. Ah putain, merde.
Oui, t'as dit Capcom Arcade Pro.
Poufi, tu pourras couper au montage.
Non,
parce que là, Thomas, tu.
Tu vois, même toi, tu te plantes.
Parce que là, sinon, je vais en bouffer pendant les 10 prochains
mois.
Ah,
mais c'est foutu là.
Donc,
là, c'est. Là, je t'explique qu'à la fin de chaque news, maintenant, il y aura cet extrait vidéo qui apparaîtra.
Bon ben voilà,
voilà vous donc, avez eu.
Du coup je peux plus rien dire.
Donc ça s'appelle comment le truc en fait?
SNK Arcade.
Ça c'est chiant, c'est dur à dire.
SNK Arcade Stick Pro.
Redis-le encore une fois.
Que je vous conseille donc de surveiller du coin de l'œil, mais de ne pas acquérir immédiatement pour l'instant, parce que on voilà.
Immédiatement pour l'instant tout de suite.
Attendre un petit peu de voir ce que ça donne.
Attendez 3 ans qu'il soit sur eBay.
Attendez que l'un de vos potes l'achète pour voir si ça peut éventuellement vous convenir. Voilà voilà.
Bah parfait, sinon attendez celui de la rédac, il sera bientôt sur ses discounts.
Il sera bientôt chez Johnny One.
Non non, plaisante, hein. On rend pas le matos, nous, c'est interdit. C'est interdit.
En tout cas c'est quand même une belle manière de célébrer le versus fighting qu'il y avait sur Neo Geo. Et qui
ben,
reste quand
exactement.
Même
exactement.
Moi, je la célèbre console de Capcom.
À tout point de vue, VTFF. Voilà.
Et FTG, comme il y avait écrit sur, sur TSOF. Parfait, bah voilà, c'était le thème numéro 2 sur ce SNK Home Arcade, Stick Pro, machin truc. Avec KOF, surtout KOF, attention. KOF. KOF.
Non, puis KOF,
KOF 97,
98, 2000, 2002. Mais il y a
oui,
quand même de
c'est...
très, très, très bonnes QV.
Franchement, c'est des jeux, mais indémodables, vraiment. Si vous aimez les jeux de combat,
oui.
Voilà. Hein. Après, il faut être très typé là-dessus, quoi.
Très typé. C'est-à-dire
très typé jeu d'arc de combat.
D'accord. Très si t'as pensé
accro au jeu de combat.
Ah voilà, c'est mieux.
Tu vois ça, bah regarde, je le retourne.
Parce que très typé, je commence à
très
poser
typé
des questions.
Comme toi, le Rital.
Oh putain, ça y est.
Bon allez, passons au thème numéro 3 avant de se retrouver en prison comme Balkany. Mesdames et messieurs, la PlayStation a 25 ans ce 3 décembre.
Non.
Je dis ce 3 décembre parce qu'on enregistre ce 3 décembre.
Je suis le seul à trouver que le logo PlayStation de la deuxième partie de l'écran de boot de la PS1 avait toujours une forme un peu bizarre. Je trouvais qu'il était un peu anamorphosé, ou c'était il apparaissait bizarrement.
Peut-être.
Je sais pas, je me rappelle pas.
Je posais pas la question à cette époque-là.
Regarde, regarde, ouais. Poufit le remet sur l'écran. Regardez, il est par rapport à la matière.
C'est pas un vrai losange, tu veux dire?
Non, pas ça. Ah. Regarde le PS,
ah, si, si, bien sûr.
Il est toujours, il est un peu
bien
chelou.
Sûr, ouais. Oui, bien sûr.
Pensez qu'il y a un code secret qui est caché.
Bah, tu penses que c'est comme le logo Carrefour. En fait, c'est un C qui est caché.
Mais il y a plein de gens qui ont essayé de découvrir ce qu'il y avait derrière ce truc-là. Ça a intrigué des millions de gens pendant très longtemps.
Et ils ont trouvé?
Bah non.
Bah voilà. Et 25 ans après, on parle.
Mais oui, je suis d'accord avec toi. Le S au sol, il m'a toujours paru bizarre aussi.
Ouais.
Mais bon.
Ah bah d'accord, tu vois, ça vient pas que de moi.
Je pense qu'il a dit ça pour te faire plaisir.
Mais... Non. Depuis le début, je me posais la question aussi, mais après, bon, j'ai pas cherché.
On dirait qu'il est aplati, en
ouais,
fait.
C'est bizarre.
Sujet très intéressant.
Bah,
mais,
que dire, voilà, les 25 ans de la PS, on a tous grandi avec.
3 décembre 1994 au Japon. Première console à proprement parler de Sony Computer Entertainment.
Ken Kutaragi, grosse
histoire hein, qui commence des années avant par des négociations avec Nintendo, suivie d'une trahison publique. Parce qu'en fait, Sony annonce en grande pompe qu'ils vont collaborer avec Nintendo. Nintendo, pendant le Summer CES de 91, 24 heures plus tard, annonce « Ah oui, on va faire un add-on CD pour la Super Nintendo avec Philips !»
Exactement.
Alors que Sony avait fait un communiqué de presse la veille, etc. Ensuite, il y a tout un tas de négociations secrètes entre Sega et Sony. Dans un premier temps, parce que Sony se proposait de faire du contenu des jeux sur CD pour le Mega CD. Après, ils ont envisagé de comment dire, c'est surtout Sega of America qui pilotait le truc, mais ils envisageaient de bosser avec Kutaragi sur la PlayStation. En fait, ça aurait été vraiment une association entre les deux. Après, faire bosser au Japon Sony et Sega ensemble, on sait les guerres d'ego, etc., et la fierté des entreprises, ça peut coincer.
Oui.
Donc tout ça ne s'est pas fait. Hein. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à lire Console Wars, parce qu'il y a vraiment énormément d'anecdotes sur cette époque-là. C'est très très intéressant. Et finalement, Sony décide de faire son truc dans son coin, et on peut dire que le marché du jeu vidéo n'a jamais été le même depuis. Entrer en nouvel acteur comme ça sur un marché où Nintendo et Sega régnaient en maître depuis des années et étaient extrêmement bien implantés, bah c'était couillu. Et c'est un pari totalement réussi.
C'est un coup de maître.
ce que Poufy vous montre à l'écran.
Oui.
Je crois que c'est, je sais plus si c'était Olaf Olafsson ou un autre mec de Sony de l'époque qui était monté sur scène pendant la Conf 3. Hein, les Conf 3 avaient une autre tête à l'époque. Hein. C'était des vraies conférences de presse avec des chiffres, etc. Et il était monté sur scène pour dire 299. C'est tout. Et il était reparti. C'était juste pour annoncer le prix, le prix en dollars de le lancement de la PS1, qui était une annonce tonitruante à l'époque, parce qu'on sait que la Saturn, elle était était plus chère. Mais bon, là, on s'éloigne un peu parce que c'est ça, c'est printemps 95. Alors que la console était déjà disponible au Japon depuis la fin de l'année, l'année 94. Ouais. Et c'est de cet anniversaire-là dont il s'agit, puisque la première sortie c'était le 3 décembre 94 au Japon. Donc les 25 ans, ce sont les 25 ans de la sortie japonaise.
Et des joueurs qui ont répondu à l'appel assez rapidement, a priori.
Hein. Immédiatement, 100 000 ventes la première journée, je crois, sur le Gong. Carton immédiat, et pourtant, quand on s'y intéresse un peu, le line-up de lancement japonais de la PS1, PS1, c'est comme ça qu'on l'a appelé par la suite.
Rétrospectivement,
c'était pas vraiment sexy. Alors, il y a le Ridge Racer qu'on a également eu en Occident à la sortie, qui était une sorte de monument, mais à côté de ça, t'avais du jeu de Mahjong, t'avais du Neketsu Oyako qui est un beat'em all. Qui est pas forcément révolutionnaire non plus.
Ni resté dans l'histoire.
T'avais Tama, une sorte de Marble Madness.
Tama.
Donc c'était, tu dirigeais une petite bille sur des labyrinthes en 3D.
Et Toshinden, t'en parles pas.
T'avais Crime Crackers, qui est un mélange entre un dungeon crawler et un FPS. Donc c'est un dungeon crawler en vue à la première personne. T'avais un A-Train, tu sais, les jeux de gestion de compagnie ferroviaire.
Dans son fer, les joueurs du pont.
Et un Parodius. Donc c'est quand même, moi,
c'est pas du line-up de killer, quoi.
Bah, de toute façon, on a bien vu que la grande majorité de ces jeux-là ne sont jamais sortis chez nous. Le line-up pour la fin, parce que la console est sortie un peu moins d'un an chez nous, on va dire une dizaine de mois plus tard chez nous. C'est le line-up avait été complètement revu et notre line-up à nous était quand même plus sexy, même si officiellement sur les deux premiers, sur le jour de lancement. Il y avait que Ridge Racer et Wipeout, mais il y a très rapidement plein d'autres jeux qui sont arrivés.
Ouais, tu lances Wipeout à l'époque, t'en prends quand même plein la tronche.
Bah, hein. Wipeout, c'est.
Il y avait de quoi faire quand même déjà.
Pour parler comme les jeunes, c'est une dinguerie.
C'est une dinguerie intense, quoi.
Moi, c'était pas du tout mon style de jeu, mais alors la première fois que j'ai vu Wipeout sur le CD de Demo One que t'avais avec la console, une claque incroyable, dont je me suis peut-être pas toujours pas remis. Quoi. C'est assez dingo. Et une petite un autre truc qui était assez surprenant, c'est que la console sort une semaine après la Saturn au Japon. Et on sait que contrairement au reste du monde. Où la domination de la PlayStation a été radicale quasiment tout de suite. Bah au Japon, la Saturn, elle a quand même,
elle a pivoté un peu.
Elle a quand même opposé une résistance un peu plus importante que qu'ailleurs, parce que t'avais gros travail sur les jeux en 2D avec les jeux de baston, etc. Mais en tout cas, ouais, la confrontation a été frontale quasi immédiatement. Mais la PlayStation a réussi à trouver son public et c'est ensuite devenu la console, la première console de salon à passer le cap des 100 millions de ventes, ce qui est quand même un sacré chiffre. Et c'est un bon moment. D'ailleurs, on se dit qu'il devrait peut-être sortir une PlayStation Mini. Ça serait malin de faire ça pour fêter les 25 ans. Je sais pas si Sony y a déjà pensé, mais
avec des mini CD. T'imagines.
Et
la GameCube.
Et pour la petite histoire, ça c'est une news que j'avais faite l'année dernière et je pense que c'est intéressant d'en reparler. Ce synthé que vous entendez au début quand vous démarrez la PlayStation, ce bruit a été fait à l'aide d'un clavier synthétiseur Roland D50, qui est un synthé qui a énormément servi dans la musique dans les années 80-90.
Ah bah Roland, ils sont intestables.
Il y a une tonne de morceaux ultra célèbres qui ont utilisé ce synthé. Et donc pour obtenir le son que vous entendiez au tout début, c'était donc le Roland D50 avec le patch Spacious Sweep. Donc parce que comme sur une console ou un truc, vous pouviez télécharger des patchs qui apportaient de nouvelles sonorités, de nouveaux instruments, etc., etc. Et donc c'est comme ça que le son de démarrage a été produit. C'est une info que tout le monde connaît pas, donc c'est assez intéressant.
Trace parlait des CD tout à l'heure, c'est un des trucs qui a fait le succès de la console aussi, c'est que d'un coup les jeux étaient quand même vachement moins chers que sur le vieux support cartouche.
Et surtout tu pouvais mettre
des données vachement plus...
Des cinématiques compressées. Et puis surtout, quoi. Sony a eu aussi l'intelligence de moins se rincer sur les royalties, ce qui faisait que les éditeurs, exactement, assez rapidement quand même, se sont déportés sur PlayStation.
Surtout son copain Nintendo avec ses cartouches qui coûtaient la peau des fesses.
Oui, parce que Nintendo marche sur les consoles, mais marchait aussi sur les jeux systématiquement.
Parce que produire sur un CD, ça coûtait beaucoup moins cher aussi.
C'est un...
Il y avait le truc économique du coût de fabrication, etc. Quoi.
C'est quelque chose auquel on pense pas nécessairement, non, mais le processeur audio de la Super NES, c'était un processeur Sony.
C'était une puce.
Et en plus de ça, Sony, on le sait, comme des titres comme Mickey Mania par exemple, a fait des jeux sortis sur Super NES. Et il y a eu une sorte de brouille à une époque avant la trahison du CD, etc. Une sorte de brouille déjà entre Nintendo of America et Sony. Parce que Sony voulait un traitement de faveur en ce qui concerne les royalties, et justement parce que les règles établies par Nintendo étaient extrêmement, extrêmement strictes.
Ah oui, c'est Yamauchi qui les avait gravées dans le marbre. Donc
il y avait déjà un désaccord à ce niveau-là. Et donc Sony, au moment où il lance sa console, eux-mêmes, ayant déjà été éditeurs, savent ce qui gêne, ce qui coince, et c'est aussi un moyen d'attirer plus de monde.
Mais la grande différence, c'est que Sony, sur ses consoles, vend les jeux justement d'autres éditeurs. Hmm. C'est eux qui font les meilleures ventes. Là où Nintendo vend d'abord ses jeux, on le voit encore, exactement, sur Switch, c'est les jeux Nintendo qui cartonnent sur les consoles.
C'est eux qui soutiennent le plus leurs consoles.
Sur les consoles Sony, c'est plutôt les éditeurs tiers qui cartonnent et qui ramassent justement une bonne part du lion. Quoi.
Ah bah sur les classements, si tu te bases rien que sur la PS4, la première exclusivité PlayStation qui arrive dans le top 10 des meilleurs jeux des jeux les plus vendus sur PS4, c'est Spider-Man, et il arrive pas aux États-Unis, en tout cas il arrive pas avant la 4e position, alors que Nintendo, tu vois un classement des meilleures ventes, c'est quasiment 8 jeux sur 10.
Je pense que dans les 10 meilleures ventes, c'est 10 jeux Nintendo.
Oui, c'est même,
alors que
c'est
là on voit que Namco est là déjà au démarrage, Konami est arrivé, enfin Capcom après avec les Biohazard, tout le monde a fini par s'y mettre.
Mais Sony a réussi à être soutenu tout de suite, quoi.
Puis c'est beaucoup d'acteurs de l'arcade aussi qui sont venus prêter main forte, donc on le dit avec Namco, avec Ridge Racer, que ce soit aussi avec Tekken, Toshinden, je sais plus qui s'en occupait d'ailleurs.
Takara.
Ouais, c'est ça, Takara.
Enfin, il y en a énormément qui sont venus et qui ont permis des adaptations de jeux 3D, des trucs qu'on voyait dans les salles d'arcade et qui nous s'en foutaient mais plein la gueule à ce moment-là. Ridge Racer, quand on y jouait en arcade en 93 ou 94, mais c'était une tarte pas possible. Et de voir qu'il était identique à ce qu'il était dans les salles d'arcade, c'était complètement ouf.
C'est à partir de cette génération-là que tu peux noter le début du déclin de l'arcade, justement parce que les
tu commences à l'avoir chez toi.
Quasiment identique. Hein.
Ça se justifiait plus nécessairement d'aller dépenser tant d'argent dans les salles. Alors
moi, je jouais beaucoup à l'arcade à l'époque où la PS est sortie. Et effectivement, t'avais plus trop de raison d'y aller, sauf s'il y avait des jeux différents que tu connaissais pas. Mais quand Tekken est sorti, Ridge Racer, etc., c'était l'équivalent. Il y avait l'équivalent d'arcade. Hein. C'était exactement la même chose.
Et grâce, c'est un enchaînement de bonnes circonstances et de bons partenariats. Parce qu'on sait que
et puis un peu d'audace aussi,
Sony,
quand même.
Oui, et de l'audace aussi.
Ils ont mis des moyens aussi.
PlayStation, attention. Donc Sony récupère Final Fantasy, ce qui est quand même
un affront que Yamauchi n'aura jamais supporté.
Tout de suite.
Vécu comme une trahison par certains fans de Nintendo qui se sont parmi qu'FF7 ne sorte jamais sur Nintendo 64. Mais aussi, c'est l'arrivée d'expériences de jeu. Même si c'est ce que Sega se vantait de faire déjà sur Mega Drive, mais des expériences qui s'adressaient à des joueurs un petit peu plus âgés que le public enfantin visé par Nintendo principalement.
Ah bah pour le coup, ils ont touché les jeunes adultes, voire un peu plus. Ouais.
Bah c'était marketé comme ça, en
bien
plus.
Sûr.
La com, le marketing était très bon aussi.
Les pubs
ils ont su s'associer avec des... Pour les pubs,
des grands
cas,
noms de la pub,
européenne.
Justement. Enfin, des grands noms, même des cinéastes.
Ouais, mais ça, c'était plutôt pour la PS2.
Ouais, c'était un peu après, c'est vrai. C'est vrai.
Mais
ils ont quand même dépoussiéré un peu tout ça.
Il y a quand même des morceaux dans les pubs, dans des pubs PlayStation des années 90, qui étaient des morceaux que tu entendais à la radio, quoi. Ce qui n'était pas forcément évident. Et
forcément,
puis,
le catalogue Sony, pour eux, c'était gratos.
Wipeout, le premier Wipeout, quand tu vois que dans la BO, tu as les Chemical Brothers.
Les frères chimiques.
Tu dis, c'est quand même costaud. Puis après, on parlera pas des autres épisodes où à chaque fois, la bande-son était de plus en plus costaud et plus en plus impressionnante, mais c'était beaucoup de pubs vraiment audacieuse et de
bah,
et
ça
de
coup
de com qui était très différent. Oui. Puis bon, après il y a plein de trucs qui étaient géniaux quand tu t'en rappelles. Les CD noirs par exemple, c'était un moyen de se démarquer, mais qui était merveilleux.
Mais et c'est
merveilleux.
Mais bah oui, c'est vrai.
Si tu regardes avant la PlayStation, les consoles de jeux étaient quand même encore vachement marquées comme des jouets. Et là, au moment où tu es dans
on l'appelait la PSX, rappelez-vous, ouais, au tout début.
Où t'es dans l'époque, où t'es dans. Moi, je l'ai écrit comme ça pendant très longtemps.
Mais nous aussi, hein. T'inquiète.
Et j'ai arrêté au moment où PlayStation a sorti une PSX, en fait. La machine au Japon. Enfin, bref, c'est un autre sujet.
Un débat, mais c'est marrant.
Mais, la PlayStation s'écartait un peu de ce côté jouet. C'était une machine cool, en
exactement.
Fait.
Exactement. T'avais comme un Walkman, comme
et
un
et puis
comme
c'était
ça,
un lecteur de CD, mine de rien.
Exactement.
En 96,
ça faisait double emploi.
Et à plus forte raison, en 94 au Japon, t'as pas forcément un lecteur de CD encore chez toi, quoi.
Et, je sais qu'en Chine, d'ailleurs, ils ont sorti une version vidéo CD de la PlayStation où en plus de pouvoir lire les CD musicaux,
DVD aussi, non,
tu pouvais lire les non c'était pas des DVD, les films sur CD, un format qui a énormément marché en Chine et dans d'autres pays d'Asie. Mais donc ouais, c'était, il y avait un côté cool. Je sais pas si vous vous souvenez du clip de Peter Kitsch.
Si, bien sûr.
ABC pour casser.
Avec Tekken.
Où t'avais les extraits de la cinématique.
Peter Tosh,
des extraits de la cinématique de Tekken au milieu du. Et d'ailleurs, eux-mêmes étaient déguisés en
Tekken.
Il y avait
l'interview dans PlayStation Magazine. Hein.
Oui,
tu devrais t'en
rappeler. Je me souviens plus, j'étais où.
Et donc, ouais, c'était une machine cool. Je crois que t'avais des vidéos promotionnelles où t'avais des clips de Jamiroquai ou des trucs. Oui. Enfin, c'était. C'était une console cool.
La culture pop des années 90. Quoi.
Ouais, c'est très daté maintenant. Oui,
mais c'était super cool, Jamiroquai.
Ouais, à l'époque, tu voyais des trucs associés à la console, tu te disais ouais, je suis pas le geek dans sa cave en train de jouer, j'utilise un truc qui est cool, quoi. Et aussi des expériences cinématographiques, enfin qui paraissent moins cinématographiques aujourd'hui, oui. Mais à l'époque, avec les dialogues
pour l'époque c'était révolutionnaire,
les dialogues doublés, ouais. Je pense à des jeux comme le premier Resident Evil quand il arrive, qui est même s'il est ultra kitsch, qui était quand même un truc. On n'avait pas vraiment eu d'équivalent de ça
jusqu'à
présent.
En tout cas, sur console, oui.
Puis la démocratisation des jeux en 3D, tout simplement, aussi. Ouais. On pense... alors, évidemment, les joueurs PC, ils se foutent de nous... Enfin, ils se foutent des consoleux en disant « Mais arrête, Tomb Raider est sorti aussi chez nous. »
Ah bah, je peux dire...
Bah, il est sorti sur Saturn aussi, mais bon, c'est...
Je peux dire que moi, à l'époque, moi, comme je me sais un peu de joystick et tout ça, tout le monde a acheté une PlayStation 1. Tous les PCistes.
Ouais, mais après,
parce qu'ils la voulaient, c'était tellement bien qu'ils n'avaient pas ces jeux-là sur PC. PC, c'était que des jeux de stratégie, des trucs comme ça. Enfin, j'exagère un peu.
La PlayStation était associée à Lara Croft pendant tellement longtemps. Oui. Resident Evil aussi. Final Fantasy. Il y a beaucoup de marques qui se sont épanouies, en fait, par PlayStation. Parce que par autre chose.
Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a pas mal de licences qui ont été inconsciemment associées à PlayStation et considérées comme des exclusivités. Alors qu'elles n'en ont jamais été, en fait. On en a évoqué deux, hein. Tomb Raider, il sort sur Saturn aussi. Resident Evil, il sort sur Saturn aussi. Mais
Toshinden.
Ils sont devenus tellement célèbres sur PlayStation spécifiquement, comme c'était la console qui se vendait largement mieux que la Saturn, que ce sont devenus presque des exclusivités qui n'en étaient pas, quoi. Et ça, ce sont des images qui tiennent encore jusqu'à aujourd'hui. Metal Gear Solid, c'est bon, le premier est sorti que sur PlayStation, mais c'était pas une série exclusive et pourtant c'était associé, quoi.
Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que 25 ans après, on dit plus jouer à un jeu vidéo, mais jouer à la PlayStation, quoi. Enfin, dans le langage courant, en tout cas pour ceux qui.
Et c'est comme
dans
quelques.
Public, c'est devenu vraiment comme ça. Enfin, c'est comme ça.
À la Play. Souvent, tu t'entends
à la Play.
Ça, c'est très
français. Moi, j'entends Call of, moi.
Oui,
bon,
Calaf. Je parle en France. Alors qu'avant, tu disais, tu vas jouer à la Nintendo. Même si tu jouais pas à la Nintendo nécessairement, mais jouais à la console, jouais à des jeux vidéo.
Et puis on parle pas de la créativité aussi, hein.
La créativité. Là,
on voit Parappa.
Ah, Parappa,
après il y aura Jammer Lamy. Avant,
c'était bien.
Vibribon.
Bon, c'était un peu, ouais, c'était particulier.
Non, mais c'était original.
C'était conceptuel. Des jeux que tu pouvais aussi trouver en arcade.
Guitar Woman aussi.
Comme les Bust
Groove.
Groove chez nous, voilà. Les Dance Dance Revolution qui arrivaient aussi sur PlayStation. T'achetais ton tapis et hop, tu jouais chez toi tranquillement.
C'est vrai qu'il y a eu cette grande mode aussi.
Enfin, t'avais tellement de possibilités en termes créatifs et t'avais tous les genres de jeux qui étaient représentés. Moi, les RPG. C'est pour l'âge d'or du RPG, il est clairement grâce à la PlayStation. Hein.
Bah c'est le deuxième âge d'or, on va dire.
Parce que
c'est ce que j'allais dire.
Je veux dire l'expansion vers l'Ouest, quoi.
Ouais, quand même beaucoup avant.
C'est le moment où il y a des où, quand t'étais
beaucoup
privé
plus de localisation,
de jeux localisés sur Super Nintendo. Là, tu avais des jeux qui arrivaient localisés aux États-Unis quasiment tous les mois. Mmh. Et tu te disais, mais attends, mais en fait, il y a trop de RPG là. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire ? Et c'était une situation qui était géniale en fait.
Et parce que Nintendo était persuadé que c'était pas un marché, enfin que les Occidentaux voulaient pas jouer à des JRPG.
Mmh. Voilà, Final Fantasy VII est sorti. Voilà, et là, tout le monde a fait.
Oh sorti et les gens se sont dit, putain, mais il y a un marché à prendre là, un peu partout aux États-Unis, ouais, en Europe. Et c'est vrai que oui, on en a connu, enfin, Poufy nous en a passé quelques-uns, mais il y a énormément de séries qui ont continué ou qui sont nées sur la PlayStation première du nom et qu'ont cartonné.
Mais il y avait un choix et une variété. Tu vois, par exemple, moi, j'ai découvert j'étais assez jeune, j'ai découvert les point and click avec la PlayStation.
Ah oui.
Parce que j'avais la souris, tu sais, la souris officielle, ouais, PlayStation, avec les chevaliers de Baphomet. C'était génial.
Pourquoi,
si t'aimais les shooters sur rail, alors c'était pas la première fois qu'on en avait sur console de salon, évidemment, mais il y en avait beaucoup. Tu pouvais avoir ton gun et tu pouvais jouer à Die Hard Trilogy, enfin le 2.
Nano Golf.
Tu pouvais jouer à Time Crisis. T'avais énormément de jeux de shoot. T'avais énormément de jeux de course. T'avais énormément de jeux de sport. T'avais tout en grande quantité.
T'avais pas de jeux de chevalier, par contre.
Et beaucoup de. Hein?
Des jeux de chevalier.
Non, ça c'était pour les joueurs PC. Il restait dessus. Mais tellement de choix et tellement de grands jeux. Enfin, t'avais de quoi faire avec la PlayStation. Et elle a continué d'être exploitée commercialement super longtemps.
Forcément.
Mais jusqu'en. La fin c'était en 2006, c'est ça le... Attends. Je vais revérifier, mais je crois que la fin de production.
Le dernier jeu PS1, c'est toujours surprenant. Je crois que c'est un jeu de foot.
Bah, c'est FIFA.
FIFA, mais genre d'une année, tu t'imagines pas qu'il y ait encore des jeux sur PS1 à ce moment-là, quoi. J'arrive plus à me souvenir l'année.
Fin de production, que je dise pas de bêtises.
91.
23 mars 2006.
Quelle classe.
Parce qu'après, une fois que t'as terminé ton exploitation principale en Occident, tu peux être vendu dans les pays.
Oui, bien sûr. T'as encore un marché en Asie.
Ils en produisent beaucoup moins, mais ils continuent un petit peu. Ouais.
Et donc ouais, sacré machine.
Et ce qui était marrant, c'est qu'à l'époque, je m'en souviens très bien, c'était toujours la guerre des nombres de polygones par seconde, machin, tout ça, que pouvait produire la console. Et c'était que ça à l'époque entre Saturn, PlayStation.
Ouais, c'est vrai.
Alors que la plupart des gens ne comprenaient pas vraiment à quoi ça correspondait.
Mais on disait, regarde, au niveau des chiffres, c'est mieux, donc forcément.
C'était exactement. Ouais, mais tu sais, aujourd'hui, on parle en teraflop, donc c'est pas beaucoup mieux.
C'était la 3D qui arrivait, etc. Donc du coup, ouais, nombre de polygones par seconde, ça a été comme ça pendant des années et des années.
Ouais, mais la Saturn.
Ce jeu-là, il fait ça.
Ouais, mais la 3D, elle est mieux sur PlayStation.
Ah, bah, c'est vrai que pour les jeux 2D, il fallait plutôt se tourner sur Saturn.
Et le. On parlait de Guro Shading, n'est-ce pas?
Les jeux de combat sur PlayStation, ça a surtout été des jeux de baston 3D.
Ouh là, attention, fais gaffe à ce que tu dis, toi.
Et un truc auquel aussi il faut penser, qui est vraiment arrivé avec la PlayStation et pour le consommateur, ça a changé beaucoup de choses, sont les CD de démo. Parce que sur PC, tu pouvais déjà avoir des démos de jeux, etc. Oui. Mais pour nous autres joueurs consoles, bah sur Super NES, sur Mega Drive, sur NES, tout ça, bah les démos, c'était quand t'allais en magasin ou dans un salon et que tu jouais sur une borne de démonstration, mais sinon t'avais pas de démo. Et là, tous les mois, ou je crois qu'au début c'était tous les deux mois, hein, PlayStation Magazine avec le CD, non?
Oui, c'était tous les deux mois.
C'était tous les deux mois. Tous les deux mois, t'avais un truc qui te permettait d'essayer deux ou trois jeux.
Bah, c'est pour ça que tout le monde l'achetait.
C'était de plus en plus au fil du temps.
Ouais, c'était dingo. Enfin, t'avais limite. L'impression d'économiser de l'argent, parce que je sais que personnellement il y a certaines démos où j'y ai joué autant qu'à des jeux complets.
Tu m'étonnes. Puis t'avais des jeux Net Nier Osé aussi à un moment donné.
Sur le, oui, mais ça c'est venu plus tard.
Ouais, ouais, mais t'avais des jeux quasiment complets sur des CD de démo pour un magazine que tu payais quoi, 30-35 francs, un truc comme ça.
49 francs. Parce que comme il y avait le CD, c'était un peu plus cher. Mais oui, la Net Nier Osé, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est une PlayStation qui était noire de mémoire,
ouais,
et qui permettait.
Je crois que j'en ai une chez moi,
c'était un petit.
Ah non, j'ai la bleue. J'ai la bleue.
Ça c'était les kits de débug. Mais la Net Nier Osé, c'était un petit kit de développement pour amateurs, en fait, que tu pouvais acheter auprès de Sony, qui te permettait de développer des jeux chez toi,
comme Terra Incognita, mec.
C'est vrai qu'ils ont vraiment démocratisé le truc pour que tout le monde puisse en profiter.
On l'oublie, mais moi sur Instagram, je sais que je suis quelqu'un de collectionneur PlayStation. Il y a eu énormément de modèles différents pour les différents marchés,
différentes
utilités.
J'entends regarder sur le net, apparemment la version PlayStation, il y a eu 4 cartes mères différentes. Alors, ils avaient tous un nom, tu sais, de code SCPH, machin.
SCPH,
et puis on regardait tous ce qu'on avait comme.
Oui,
et
on a aussi eu en Occident des boîtes dégueulasses qui tiennent pas la durée, quoi.
Ouais, et alors qu'aux States, ils ont eu les boîtiers CD très fins classiques, mais avant ça, ils ont eu les long box.
Oui.
Les long box qui ressemblaient aux boîtes Saturn un peu, ou même Mega CD américain.
Kingsfield 3, Alien 3.
Kingsfield 2, Resident Evil.
Resident Evil. Ouais.
Et ces boîtes, ces boîtes-là valent assez cher maintenant parce qu'elles ont, bah, oui, n'a pas eu énormément de produites.
Comme ma console bleue, je crois que je la vendrai jamais.
Et tu parlais des, des consoles avec les différentes cartes mères, etc.
Oui, oui. Bah, il y avait même juste il y avait le SCPH 1000, SCPH 5001, SCPH 9001. Et SCPH 101.
Bah,
et,
c'est le premier, le meilleur. Une...
Bah oui,
tout passait.
Et je crois que c'était, c'était le premier modèle justement qui était considéré comme le modèle audiophile. Apparemment, qui avait une super carte son ou je sais plus quoi.
Un chip sonore. Et les
gens vraiment passionnés par la musique, à l'époque, la branchaient sur des chaînes hi-fi pour écouter leur CD parce qu'apparemment, elle avait une qualité audio qui était vraiment supérieure. Tu cherches audiophile PlayStation et tu devrais trouver de quel modèle il s'agit.
En tout cas, la puce GPU, donc le processeur graphique, il a été conçu par Toshiba. Ça, j'avoue que je m'en souvenais plus. Et pour le chip sonore, ça, je me souviens plus trop exactement. Mais il y avait un terme dont on parlait tout le temps à l'époque aussi.
Ouais, changer sa lentille, ouais.
C'était sur le processeur. Non. C'était le nom du processeur. Tu t'en rappelles pas, toi, qui a une mémoire de malade mentale?
Le nom du processeur.
Le nom du processeur. Il avait un surnom nom.
C'est pas le sel.
Ah si, c'est ça, voilà, c'est ça, exactement.
C'est le sel.
Si, c'est la raison, ouais. Putain, mais t'as une mémoire de ouf, toi, c'était évident.
C'était pas pour la PlayStation. Attends, non, c'était l'Emotion Engine, c'était pour la 2.
Ah non, c'était le sel, je crois que c'était le premier.
Alors la PlayStation.
C'est bizarre que je le retrouve pas.
La PlayStation.
Mais oui, je me rappelle plus.
C'était le sel. Si, c'était ça. C'est E2L.
La PlayStation Audiophile, c'est la SCPH 1002.
Ah bah, ouais, donc ça doit être une version ultra différente alors.
Et ouais, donc ouais, les gens la branchaient à leur chaîne hi-fi. Mais ce qui est vrai, c'est vrai, ce que plus maudit en rigolant, ça c'est une vérité aussi de la PlayStation.
Une lentille. Ouais.
Non, le sel c'est pour la PS3. Hein. C'est bien ce que je me disais. Je sais plus quel est le nom de cette puce.
Parce que le PS1, pour la PS1, on parlait aussi d'une puce. Bon, bref, c'était tellement vieux. Hein.
Ah, c'est Jean Alési.
Ah, c'est Jean Alési, excellent. Ouais, c'est lui, je te confirme.
Alors, il était Marianne. À fond, à fond, dans la ligne droite, il était dans le virage,
tu
direct dans les graviers.
Il fait comme tout le monde, il joue un jeu de course et il bouge sa manette en même temps.
Il était Marianne japonaise, d'ailleurs, je crois que c'était elle. Hein.
Ah bon semble, ouais. Elle avait pas l'air très japonaise, hein, si tu.
Ah, si.
En tout cas, elle
regarde
était.
Okay.
Elle
était ah là, oui, ça a l'air japonais.
Il était marié avec elle.
Mais donc, Plumeau parlait de la lentille. Et c'était un défaut surtout sur les premiers modèles, c'est que la console, quand tu l'utilisais beaucoup, bah, elle fatiguait. Et moi,
tu la mettais sur le côté.
J'ai connu.
Tu la mettais debout.
Sur le dos, même.
Moi, je l'ai mise à l'envers. Ouais.
À l'envers.
Ouais. À l'envers. Ouais. D'ailleurs,
alors ça, par contre, c'est super mauvais. Hein.
Bah, j'en ai racheté une.
Oui, mais ça laisse démarrer.
Ouais.
Ouais.
Parce que quand tu peux pas jouer, j'en avais acheté une d'occasion à un pote où il avait fait mettre. Des comme des petits cales que tu mets sous les meubles quand tu veux traîner sans
d'accord.
faire de bruit. Il en avait mis. Je crois 8 sur sa console, donc 4 sur les bords et 4 au niveau du capot pour pouvoir justement la mettre à l'envers sans
on pense à l'évolution des modèles, mais je vois aussi sur celle qu'on a ici, on a le port parallèle derrière qui permettait de mettre l'action replay qui a disparu, je crois, dès la première
retiré,
révision
ouais.
parce que ça permettait de faire tourner des jeux pirates.
Bah, ils ont d'ailleurs,
il n'y avait même pas besoin de ça, il suffit juste d'un cure-dent.
Ah ouais,
sur les premiers modèles.
Bah oui. Je me souviens d'une astuce.
Non, c'était une astuce. Tu ouvrais le capot, tu mettais le CD et tu le fermais tout de suite.
C'est comme ça qu'on lançait les jeux import.
Ouais, c'est ça. Pendant qu'il y avait un petit truc.
Alors qu'il vous suffisait d'avoir juste un petit ressort, vous le mettiez dessus.
Oui, il y avait ça aussi.
Et puis, oh tiens.
Donc, comme tu es ingénieur.
Ah, j'ai fait ça.
Moi, j'étais jeune.
Un tout petit ressort que tu calais sur le truc. Et oui, bah même il y a d'autres trucs plus esthétiques, tu vois. Ça, c'est un modèle qui est pas de lancement parce que sur le bouton power et reset, ce sont des symboles. Alors que sur le premier modèle, c'était écrit explicitement power et power et reset. Et là, vous avez les deux manettes devant. Évidemment, la manette sans joystick, c'était la manette originale. La DualShock est arrivée. Par la suite
avec Hyper Escape
après
et DualShock dont ils arrivent
après la double stick analogique avec les sticks incurvés qui était beaucoup plus pratique à prendre en main que ces putains de champignons dégueulasses bombés.
Ouais.
Franchement, je l'ai gardé pendant longtemps cette manette, je sais pas ce que j'en ai foutu, mais j'aurais bien voulu la garder à vie.
T'as
en fait
dû la péter au bout d'un moment.
Oui, probablement dans un tournoi ISS2.
Bah, c'est sûr.
Et au Japon, il y a aussi eu la petite carte mémoire avec l'écran. Un peu comme le VMU,
ah oui,
où t'avais le...
exact.
C'était un mini-jeu avec des chocobos, je crois, que tu pouvais.
Bon, c'était le meilleur moyen de la vendre.
Mais bon, c'est vrai que c'est pas le truc le plus, c'est pas le truc
bon,
le plus marquant de la PlayStation.
J'essaie de retrouver le nom du processeur de la PS1, je le trouve
parce que je sais pas, on en parlait tout le temps, mais bon.
J'ai pas.
Peut-être
voilà.
Que j'ai rêvé, peut-être que c'est dans ma tête.
Risk.
Ah oui, Risk.
Le risque.
En fait,
voilà,
moi
je crois pas.
Mais ce qu'on passe depuis tout à l'heure, ce sont surtout des publicités japonaises qu'on parlait du lancement japonais. Mais chez nous, on en a eu des biens. Ah bah voilà,
tiens,
Pocket
Station. Pocket Station, c'est ça, exactement.
Avec le comité anti-PlayStation.
Oui.
fantastique.
Ne sous-estimez pas la puissance de la PlayStation. et le, toutes les pubs.
C'est un peu bizarre quand même cette pub. Hein.
Le Faux Boys Band. Où ils arrivent plus à souvenir, ils arrivent pas à danser en rythme, ils leur montrent
parapas.
Croix, croix, carré, rond, 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 et triangle. Et ça, c'était génial. Il y en avait plein des pubs comme ça.
Il y en a plein. Mm. Ah, c'était vachement original. Et du coup, ouais, comme je disais tout à l'heure, ça dépoussirait un peu
mais même les pubs
qu'il y avait sur les jeux vidéo, quoi. En général, tu montrais que le jeu, et c'était fini, achetez-le, machin.
Tu veux rencontrer un punk.
Les pubs dans les magazines, c'était cool. Les pubs dans les magazines où tu sais, t'avais des fausses couvertures de journaux et à chaque fois c'était sur un jeu, c'était un article sur un jeu différent. Mmh. T'avais Crash Bandicoot, t'avais Chevalier de Baphomet, t'avais tout ça. Enfin,
t'as vu, elle avait pas tout doux près de l'écran.
En termes de com et de marketing, ils étaient un peu sur un nuage. Sony à ce moment-là.
Je pense qu'ils avaient fait appel à pas mal de grosses boîtes de pubs traditionnelles en fait et du coup ils ont appliqué ça à la console de jeu et ils ont bien joué parce que voilà, ça a marché du feu de Dieu quoi.
Bah,
ils voulaient toucher un grand public. Ils ont réussi à ramener des gens qui jouaient jamais aux jeux vidéo quoi.
De toute façon, s'il y avait ces attentes à l'arrivée de la PS2 et attente qui a contribué à tuer la Dreamcast dans l'œuf quasiment, c'est parce qu'ils avaient surcartonné avec celle-ci.
D'ailleurs, la PS2, elle a mieux marché que la PS1. Hein, si c'était pas de théorie.
C'est plus vendu que la PS1, je crois. Ouais. Et en un temps d'une console, ils sont devenus des références du marché du jeu vidéo, comme s'ils avaient toujours été là. En fait.
Alors qu'ils sont sortis de nulle part. Sony, la marque, tout le monde la connaît, mais.
Dans le jeu vidéo, ils avaient fait des jeux, mais c'est vrai qu'ils n'étaient pas connus pour ça.
C'était de nouveau.
Et on sait que l'impact de ce truc-là est ressenti encore aujourd'hui, au sens où maintenant PlayStation, c'est un des moteurs de Sony Corporation son ensemble.
Ça peut être un peu dangereux ça, parce que s'ils coupent la branche PlayStation,
oui, mais ils ont une activité qui est encore diversifiée. Ils misent pas tout là-dessus. Bah, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils peuvent ne pas marcher sur leur console.
Mais c'est une grosse partie de leur marche quand même.
Ils misent pas tout là-dessus. Mais si PlayStation disparaissait du jour au lendemain,
ils ont un gros problème.
Sony, ça serait compliqué. Ça serait compliqué pour eux.
Alors que Microsoft, je pense qu'ils ont pas besoin de la Xbox pour s'en sortir quoi.
Non, je pense même chez Microsoft, certains des fois leur
ils en ont marre.
Xbox, hein. Bon, ça va,
ça suffit.
Mais bon, après, il y a beaucoup de gens qui ont
On doit leur dire, comme au producteur des Simpsons, bon, c'est quand que vous arrêtez là, avec vos conneries.
Ah non, pas les Simpsons, arrête.
Mais donc, oui, après, on a tous des souvenirs différents sur la PlayStation première du nom. Parce qu'on parlait à la base de l'anniversaire japonais, mais évidemment, on est obligé d'aller plus loin que ça. Ah bah tiens, c'est une pub PS2 maintenant. Puffy s'est endormi.
Il s'est endormi.
Donc, on va bientôt arriver sur les pubs PS3.
Et PS5.
Vos jeux marquants sur PS5.
Ouais, il y en a trop.
T'es fou.
Il y en a beaucoup trop.
Moi, je dirais Gran Turismo parce que c'est celui qui me vient en tête tout de suite sur la console. Forcément, un jeu de baston.
Puis j'ai le plus vendu.
J'ai adoré
un jeu de baston.
De course, pardon. J'ai adoré Motor Toon aussi. Un jeu de course aussi.
Bah, c'était Polyphonie Digital aussi.
Polyphonie de Kazunori Yamauchi à l'époque. Où j'ai joué des milliards d'heures. Il y a Resident Evil évidemment. Silent Hill.
J'ai joué dans la salle d'attente de mon orthodontiste à Gran Turismo.
C'est vrai?
Ouais.
Comment ça? Il avait
trois PlayStation avec Crash Bandicoot, Pandemonium et Gran Turismo.
Putain, la chantilly, vous faites vraiment pas chier.
Putain, c'est balèze, ça.
C'est clair.
Attends, et ça, c'était quand?
Elle était connectée en LAN en plus et il faisait
tourner. C'était pendant que ça sortait?
Il en avait acheté plusieurs, il les avait foutus dans sa salle d'attente et je me souviens qu'une
fois. Quand c'est sorti, genre en 95, quoi.
Bah, quand les jeux sortaient, ouais, il rachetait des consoles de temps en temps.
Je veux dire, c'était pas des trucs.
Putain, c'est un beau sacrifice. Il lui a acheté son troisième chalet à Courchevel.
Non, mais tu rigoles, je me souviens d'une fois où je jouais à Crash Bandicoot.
T'as pas piqué la manette?
Il arrive, il me dit, putain, comment est-ce que t'es arrivé là? Et en fait, il s'est posé 5 minutes alors que t'avais un type qui attendait sur la table, la bouche grande ouverte.
En train de mourir. En train de faire une crise cardiaque.
Oui, Resident. Baphomet, ça m'a vraiment. Ça m'a vraiment marqué.
Bah, moi, j'ai pas découvert les point and click, mais c'est vrai que j'ai adoré aussi. Hein. Je les ai tous fait après, presque sauf un.
Il y en a tellement que j'ai du mal à. C'est Wipeout, forcément.
Tiens, regarde, c'est Crash Team Racing, alors t'en fais quoi?
Bah, Crash Team Racing, j'y ai pas joué.
Quel chef d'œuvre. Final Fantasy VII, évidemment, moi, j'ai pas joué, mais. Je voyais Greg à l'époque, il jouait. Putain de chef d'œuvre, pareil.
Ouais, puis des jeux de baston mémorables, oui, Tekken 2, Tekken 3, Soul Edge, qui moi m'a foutu une telle claque.
Tobal 1,
Soul Edge,
évidemment. Tobal 1, ouais, j'ai beaucoup joué à Tobal 1.
Tobal 1, pareil.
Vous vous souvenez de Bushido Blade?
Bien sûr.
Où tu pouvais tuer avec un seul coup de
sabre. C'était le Samurai Spirit de la console, en fait. Hein. C'était le même rythme de jeu, très lent.
Mais c'était
super réaliste.
Super technique, c'est ça, exactement. Resident Evil évidemment, bon après il faut aimer. Et ISS Pro forcément.
Ah bah ça, ISS depuis alors
toujours.
Victor Eagle non, leur tout premier qu'ils ont tenté là qui était un peu pourri.
Et Coupe du Monde 92 en fait quoi.
Les yeux dans les bleus, non. Le monde des bleus. Je pensais à Adidas Power Soccer en fait. Adidas Power Soccer qui était pas bon, hein, mais
j'ai adoré Adidas Power Soccer. Et même parce que je suis pas un spécialiste des jeux de foot, le côté arcade avec les commentaires féminins et tout.
Et le premier jeu de foot commenté par Thierry Roland qui était Actua Soccer aussi, que PlayStation Magazine m'a fait acheter parce que j'ai vu ah bah ouais c'est là, alors que c'était de la merde.
Ah moi j'ai jamais dit c'était merde. C'est pas moi qui ai fait le test, je sais pas.
Non,
c'est Jean qui a dû faire le test.
Moi je jouais beaucoup aux jeux de basket et il y avait les Total NBA. Qui était marquant.
Oh, qu'est-ce que j'ai aimé.
Parce qu'ils avaient le visage. C'était des photos des visages qui étaient collés sur les modèles 3D. Alors maintenant, c'est absolument immonde. Hein.
Ah ouais, ouais,
mais à l'époque, c'est... Vous avez extraordinaire. Vu ce réalisme.
Mais surtout, attends, le reflet sur les parquets, les bruits, etc. Mm. Ah non, Total NBA, attends, c'est celui de Konami.
Non, non, c'est celui de Sony.
C'est Sony, d'accord. C'est Sony, ça.
Celui qui avait une jolie couve bleue. Ouais, c'est ça. Avec un petit effet ballon de basket dessus.
Ah, ça, c'était la couve orange, c'était le 97, je crois. Ah, oui, le Total NBA 96, c'était genre une sorte de modèle 3D qui dunkait sur la jaquette. Oui, Konami, c'était NBA Action ou un truc. In the Zone.
In the Zone.
Et quoi d'autre?
Suikoden.
Parasitev
alors.
Ah, Suikoden, c'est une grosse frustration pour moi parce qu'il y avait des tests dans les magazines qui disaient que c'était génial. Il y avait des pubs, etc.
Ça,
et pendant plusieurs mois, j'ai appelé des magasins. Est-ce que vous avez Suikoden? Est-ce que vous avez Suikoden? Il l'avait jamais.
Ah ouais?
Et en France, c'est pas possible.
Et apparemment, il a été édité en très petite quantité.
Oui. Le 2, c'est sûr, c'est à 2000 exemplaires.
Mais il est sorti.
Ah oui, il est sorti, mais tu le trouvais pas. Moi, j'ai voulu. Les tests m'avaient convaincu et tout. Alors que c'était pas du tout mon style de jeu. J'avais envie d'y jouer, introuvable.
Si un jour je te le retrouve,
je te le vends.
Toi, tu vas me le vendre.
Si Julo était là, il parlerait de Vagrant Story aussi.
Bah oui, mais bien sûr, mais
il y a une sacrée claque.
Il y a beaucoup de jeux qui sont pas sortis aussi chez nous. Hein. Brave Fencer Musashi, Parasite Eve. Je sais pas s'il est sorti. Non, il est pas sorti chez nous.
Le 2 est pas sorti. Le
Chrono Cross, par exemple, c'était l'anniversaire il y a pas longtemps.
Chrono Cross, Xenogears,
DQ7.
Il y en a beaucoup.
Session Derby là, qui passe à l'écran, mais qu'est-ce que j'ai adoré ce jeu
comme
aussi.
Comme Wild Arms, qui était un outsider et qui finalement s'est avéré être bien plus que ça.
RPG de western.
Alors, tu vois, là il y a des images de Destruction Derby. Ce que je disais à l'époque quand je jouais à Destruction Derby et à d'autres jeux du genre, c'est que
ça, c'était
un public,
polygone à chaque fois.
Un public poubelle. Parce que regarde, si tu regardes le public, t'as l'impression que c'est des tas de déchets.
C'était pourri, hein.
Bah, mais pour l'époque.
C'était à chier, c'est clair.
Et ça, c'est quelque chose que je disais déjà à l'époque, hein. C'est pas une remarque avec le temps. Mais,
par contre, les mix en 3D, ça, j'étais pas trop pour.
Non, moi non plus. Ça, j'ai pas joué, tu vois.
Dans les magazines du lancement de la PS1 chez nous, il avait pas eu de très bonnes notes, les mix 3D.
Il y avait Cool Hour dans Puzzle Game qui était vachement
aussi, Kurushi.
Kurushi.
IQ, c'est ça,
qui est dans le line-up de la PS classique d'ailleurs.
Moi, je me rappelle avoir fait mettre la puce, pas pour les jeux piratés, hein, mais pour les jeux importés, parce qu'il n'y avait pas encore de jeux gravés, mais pour pouvoir jouer à DBZ Legends, tu sais, celui qui était en 3 contre 3, avec des tout petits sprites en 2D dans des grands décors.
Oui, parce
en
que
3D.
La caméra s'éloignait à mort. Ouais.
Et ça, je l'attendais, et comme il sortait pas, d'ailleurs, il est jamais sorti chez nous sur PlayStation, j'ai fait mettre la puce pour pouvoir me l'acheter.
C'est
après,
vrai,
j'ai joué à plein de gens.
Dragon Ball GT Realbout.
en fait, lui, je l'ai.
Un vrai combat.
Comme il avait l'air pourri, je me le suis pas pris à l'époque, je l'ai acheté des années plus tard. Mais je regrette pas de pas l'avoir acheté à ce moment-là. Ouais, une fois que j'avais mis ma puce d'import, j'achetais plein de jeux auxquels j'aurais certainement jamais joué avant, genre Street Fighter 02. Qui est devenu Street Fighter Alpha 2 chez nous.
Alpha 2, c'est le 3.
J'avais importé ça. J'étais pas très bon, hein, mais j'aimais bien y jouer malgré tout.
Ah, le 3 avec ses challenges, de fou là sur la World, c'était le World Tour, je crois que ça s'appelait. Le mode où tu faisais que des défis les uns après les autres, des trucs un peu barrés.
Les deux se complètent beaucoup. Le 3 a pas vampirisé.
Mais le 3 il a un roster de malades. Enfin, il était extraordinaire.
Bizarre, personne n'a parlé de Metal Gear Solid. Ça vous a pas marqué?
Bah,
moi j'ai jamais fini.
Si on en a parlé.
Ah bon, d'accord.
Bien sûr qu'on en a parlé.
J'ai joué jusqu'à la moitié et j'ai arrêté après.
Bah, en
moitié
fait,
route,
j'en avais marre. C'était moitié route, ouais, pour le coup.
Aujourd'hui, Metal Gear c'est une de mes séries préférées. Mais à l'époque,
attention.
À l'époque, j'avoue que j'avais été dégoûté par le jeu. J'ai joué jusqu'à Vulcan Raven. Parce que je n'en pouvais plus de ce doublage français.
Moi, c'était les caméras qui m'ont
fait. Genre, colonel. Je m'en fais mal à la gorge.
Ouais.
C'était tellement mal.
C'est pas facile de parler comme Stallone. Hein.
Ah, c'était tellement mal joué que ça m'a complètement sorti du truc.
Tu sais que tu vas te faire démonter dans les commentaires là.
Ah bah je m'en fous. Ça serait pas la. Ça sera pas la première fois et ça sera pas la dernière.
Et ça sera bien fait pour ta face.
Les gars, soyons sérieux. La VF de Metal Gear, le premier, elle est pourrie.
Bah tu pouvais te boucher les oreilles, je sais
fallait
pas.
Y jouer en japonais.
Elle, elle est 12e degré.
Et être bloqué le jour où on te dit bon bah
oui, mais elle est 12e degré mais elle est tellement loin de ce que Kojima imagine pour son jeu que donc je m'y suis remis des années
qu'on
après.
Bien les nanars ici. Hein.
Ah ouais, alors là c'était compliqué. Ouais, donc
l'Eternal Jumping Flash.
Que Thomas et Philippe ont terminé en une fois.
Ah oui, quand ils ont fait le rétro.
J'ai toujours pas lancé Robit, mon dieu.
Ah ouais,
c'est vrai.
Mais faudrait qu'on se le fasse en.
Bah, on va le faire tout à l'heure, après.
En même temps, ouais. Donc,
après l'enregistrement, on fait 40 rétro machin.
Bah, faut peut-être terminer l'émission avant.
Ah, ok. Hein,
c'est vrai.
Mais donc, bon. Oui, enfin, franchement, la PS1, ça pourrait être un podcast à elle seule.
Exactement, d'ailleurs, on va en faire un podcast sur PS1.
Oui,
direct,
parce que
tellement de choses à dire.
On parle pas de Symphony of the Night, de Wipeout 2097.
Si, t'as pas entendu.
De Suikoden 2.
Si en argent, si en or, rappelez-vous.
Exactement. J'ai toujours pas compris.
Seuls les vrais savent.
Et vous, chaque personne comprendra jamais.
Non.
Et vous vous souvenez de ces concours, spécifiquement en français, où tu pouvais gagner genre des bagnoles ou des trucs
bah
comme
oui,
ça?
Parce que je connais le vainqueur de du
tu
concours Porsche Challenge.
Tu pouvais gagner une Porsche, tu pouvais gagner une Harley
Davidson.
Harley,
absolument. Bah, alors, Pierre Landouzi qui habitait à Reims.
Pierre Landouzi,
qui
il a gagné
avec qui je suis devenu un très bon pote.
Il a gagné 3 années de suite, je crois.
Il a gagné sur Grand Turismo,
Porsche Challenge. Il a Dodge Viper aussi.
Dodge Viper, exactement.
Et sur Tekken, la Harley sur Tekken. Il a gagné 3.
Mais comment il a fait pour gagner? Il était si bon que ça?
Il était vraiment très bon.
Moi je crois que c'était un peu louche, mais bon. Après...
Non, mais en fait, ce que lui faisait, c'est qu'il profitait
c'est un génie.
Sur Gran Turismo, je crois. Il nous en avait parlé.
D'une ruse à la con.
D'une ruse en rebondissant sur les murs, par exemple. C'était un truc que personne faisait.
C'était un super player.
Ouais, il en profitait.
Mais oui, il était super doué, hein, ça c'est clair.
Après, à PES, il se démerdait, mais il était moins bon quand même.
Mais déjà, quand t'as gagné une Porsche, une Dodge Viper et une Harley Davidson,
c'est bon, ça.
Non, mais c'était.
Je sais pas ce qu'il est devenu d'ailleurs.
Bah, il est toujours aiguilleur du ciel.
Il fait le tour du monde avec ses bagnoles.
Il les avait pas gardés.
Ouais. Hein. Bah, la Viper, à mon avis, ça doit tellement consommer.
La dernière fois que je l'ai vu, il avait. Je sais plus, c'était une Mazda décapotable, mais ça avait rien à voir. Rien à voir avec les bagnoles qu'il avait eues auparavant.
Je crois qu'il les a revendues.
Et ouais, il était aiguilleur du ciel à Reims, tout allait bien pour lui.
Bah, il n'y a pas d'aéroport à Reims, donc.
Bah, parce que s'il avait continué un peu dans le. Il avait continué un peu dans le game entre guillemets.
Il a essayé. Hein. Il était aussi un petit peu sur StarCraft.
Ouais.
Avec un pseudo que j'aimais bien, qui était Choconours.
Moi, je connais Chelours, mais.
Mais après, ouais, il a essayé un peu sur ISS, PES, mais ça fonctionnait pas des masses.
Ouais. Après, il a lâché l'affaire.
Bah ouais.
Il s'est dit, c'est bon, j'ai fait mon temps, j'ai gagné 3 concours de suite. Je les ai tous pliés, donc voilà, c'est bon. Mm. Bah voilà, je repense à un dernier truc.
La console était tellement populaire qu'il y avait des.
Très populaire.
Des boîtes qui faisaient qui produisaient des boîtiers de CD format PlayStation. Ah ouais. Tu sais que ils étaient fragiles, et que tu pouvais les péter, genre tu l'ouvrais un peu fort une fois et la jointure cassait.
Ah bah t'éternuais dans la même pièce même, la jointure cassait.
Non, t'avais des. Tu te rappelles aussi les colonnes de CD où tu pouvais empiler tes CD. Ils en vendaient. Ils en vendaient au format boîtier PlayStation.
Ça, tu les retirais, tu les cassais en les retirant.
Ouais, voilà, ça contribuait. Comme ça, ensuite, t'achetais des boîtiers de CD.
C'était quand même bien de la merde, ces boîtiers.
Pour les gens très pointilleux,
il y avait bien de trucs. Ouais, les doubles boîtiers.
Mais c'est marrant, ils faisaient des doubles boîtiers pour des jeux qui avaient un seul disque.
Exactement.
Genre, Tekken 2,
en train de me dire,
Tekken 2 chez nous, il
n'y
a qu'un disque, mais t'avais un boîtier double.
Ah non, Tekken 2, moi je l'ai connu en boîtier simple. Ah
ouais. Ouais. Moi aussi, mais effectivement, il était bien en boîtier double.
Mais parce que moi j'ai la version boîtier double, donc je sais de quoi je parle.
1000 fois plus cher que Puffy.
C'est vrai, j'ai oublié de parler de.
De Pierce Led.
Non, de. Ouais, ouais de. Putain, j'étais en train d'y penser.
Bah, je sais.
De Kenji Eno.
Non, Rival Schools.
Ah oui. Rival Schools,
oui, c'est vrai que le premier
était sur PlayStation. Et le mode aventure qui avait disparu en Europe.
Bah oui, parce qu'il y avait.
Qui était sur le deuxième CD. Non, parce que c'était un mode aventure qu'il fallait le traduire.
Et ils ont dit non. Localisé, ouais.
Ouais, c'est ordure.
Star Wars, Masters of Terracasi.
Grand jeu.
Ouais. C'est quoi ça déjà?
Énorme jeu.
Un jeu de combat tout pourri. 3D pourri.
Ouais. Je me souviens plus.
Ah, je me souviens aussi qu'à l'époque, un truc qui m'avait marqué parce que ça m'a.
Les jeux les plus pourris
de la série. Ishibashi, bordel.
Ça m'intéressait pas, mais Command & Conquer Alerte Rouge, je me rappelle qu'il y avait une certaine hype autour de ce jeu sur PS1.
Bah, nous, t'étais venu nous voir très souvent à Redac pour vendre leur jeu. Mais c'est vrai que ouais, ils avaient beaucoup de pression dessus, je sais pas pourquoi. C'était Virgin à l'époque, je crois.
Moi j'avais beaucoup de potes qui jouaient à Alerte Rouge sur, sur PS1. Ouais, qui n'était pas forcément le système le plus adapté pour jouer à ce genre de jeu.
Non, justement, c'est
mais...
pour ça qu'ils étaient derrière à fond. Mais c'était Virgin qui était Virgin Interactive. Donc forcément, les mecs qui mettaient les moyens et. Ils te disaient à quel point le jeu était fantastique. Mais je pense que ça l'était en plus, hein. Mais moi c'était pas mon truc, mais. Mais je pense que c'était la bonne cam, comme dirait Jésus.
Ouais, il avait eu des, ouais. Il avait eu des bonnes notes ce jeu-là.
Exact. Et Destruction Derby, alors tout le monde a joué, non ?
Bah oui,
ouais, c'était beaucoup génial, j'adorais. Moi aussi.
Je sais que Julo me dira que c'était de la merde, mais moi j'adorais.
C'était pas
bah avec du recul,
c'était
oui.
Pas extraordinaire.
Bah non, sur le coup, moi je
mais,
te parle
mais,
sur le coup.
Mais sur le coup, elle jouait de temps en temps.
Aujourd'hui, bah oui, c'est
les,
bon,
les destructions localisées et tout, c'est
voilà.
Vrai que.
C'était surtout pour ça, c'était plus une démo technique qu'un vrai jeu, entre guillemets.
Ah, puis je m'amusais, ouais.
Tu vois ce que je veux dire ou pas ?
Et puis tu pouvais choisir tes angles de caméra dans les replays.
Oui, c'est ça, voilà, exactement.
Des trucs qu'on avait
mais
jamais
ça,
fait
mais
avant.
C'est quoi. Ça qui était fou, c'est que tu pouvais effectivement faire ça sur plein de choses. Sur Total NBA notamment, moi je m'amusais à bouger la caméra en arrière, super loin de la balle, sur la balle, dans les tribunes, etc.
Et tu pouvais
et c'est vrai que c'était la première fois que tu faisais ça.
Ta
quoi.
Caméra. Il y a
la 3D, c'est, voilà, ça a été vraiment démocratisé avec.
De toute façon, Psygnosis était.
Mais oui, Psygnosis, bien sûr.
Studio génial de la PS1, hein, vraiment à ce moment-là.
Même si eux qui faisaient
là
tout.
Encore, hein. Ils faisaient des jeux ailleurs aussi. Parce que Wipeout, il y en a eu un sur Saturn. Ouais, une 64.
D'ailleurs, ils ont racheté par ce... ils ont été rachetés par
ils
Sony.
Ont fini par
appartenir de vue le lequel de studio, c'est pas le London.
Non, ils ont, je crois que ce qui était feu Psygnosis, ça a fermé il y a quelques années.
Oui, ça a été
et
racheté par
London,
Sony, ça a fermé.
Oui, non,
la
mais le London Studio, c'est je crois c'est que c'est une autre
de...
c'est une autre structure.
Ah, d'accord.
Oui, c'est autre chose.
Je me trompe peut-être.
Si je sais plus tout ça. Et ceux qui avaient fait Porsche Challenge aussi, putain, qu'est-ce que c'était sympa, c'était un français qui l'avait créé ce jeu-là.
Inned Reims d'ailleurs.
En Angleterre. Non,
pas cette fois.
Je crois qu'il était du sud-ouest.
Frédéric Reynal.
Non, pas du tout, n'importe quoi.
Ça aurait été rigolo.
Non,
hein.
vous le connaissez pas, il était vachement sympa, mais.
D'accord, bah, on connaît pas. Jeu, Serge Blanco.
Il est trop vieux. Non, mais il est trop vieux pour vous.
Et Little Big Adventure aussi.
Mais ce jeu, pour parler sur. Parce qu'il était bien sur PS1. Attends, j'essaie de voir qui l'avait créé. Team So, c'est ça, voilà. Pascal Jarry, voilà, c'est ça, je trouvais plus long. Pascal Jarry. Il est sorti en 11 avril 97. Bon, pas super longtemps après la sortie de la PS, mais.
Quelle classe.
Mais qu'est-ce qu'il était bien ce jeu. Et je sais plus ce qu'il est devenu parce qu'elle arrive. Mais
moi je me rappelle, alors c'était pas mon style de jeu, j'ai beaucoup joué à la démo parce qu'elle était dans le PlayStation Magazine un des mois Porsche Challenge.
Ah oui, j'ai beaucoup joué aussi. Ouais. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'était l'attrait de la marque
ouais,
ou un
dans
truc
les
comme
petits forspies, les verralis.
Parce qu'on s'entraînait pour faire le concours pour gagner la bagnole du haut de nos 12
et
ans.
Après, et après le Porsche Challenge, j'avais fait un jeu de bateau à moteur. C'était vachement
bateau
bien.
Hydro Thunder.
Non, attends, je sais plus. Jeu développé, attends, je suis en train de regarder. Rapid Racer, c'est ça.
Il y avait Jet Moto aussi.
Ah, c'est vrai que c'est eux qui ont fait Gateway aussi. Mais je crois que Pascal Jarry, il était plus là déjà, il était parti.
Ah oui.
Lui, il a juste fait Porsche Challenge et Rapid Racer, après il est parti, je crois. Ouais, oui, parce que c'est de Gateway, c'est 2002, donc après c'est devenu n'importe quoi sur PS2 et c'était pourri.
Et le premier GTA aussi.
Et le deuxième aussi.
Oui.
Et London.
Oui.
Ah, c'était le bon temps. Hein.
Ouais, on pourrait parler des heures et des heures là-dessus.
Ah oui, clairement.
25 ans quand même de jeux vidéo, on peut pas résumer ça en 40 minutes. C'est un peu compliqué. Mais voilà quoi, donc c'est un anniversaire.
Bah c'est un
c'était
bon anniversaire.
C'était un thème slash anniversaire qu'on tout.
Exactement.
Otanjobi Omedeto.
C'est vrai, c'est pas faux. Voilà, donc écoutez, si vous avez des anecdotes et tout ça, n'hésitez pas.
Et si vous arrivez à comprendre Suikoden, sur en argent, voilà.
Je crois que pas comprendre ce que ça signifie, mais c'est pas grave. Faut que ça reste un mystère mystérieux dans la vie.
Ok.
Si vous voyez ce que je vais dire. Voilà, bon, on a fait. Notre petit tour de la PlayStation, comment on l'avait vécu à l'époque et comment elle est perçue et comment elle a marqué l'histoire du jeu vidéo, encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, d'ailleurs, il y a eu une récompense du Guinness World Record.
425 millions de consoles de salon vendues par Sony.
450 millions de PlayStation vendues
pour des consoles de salon.
Au 7 novembre, jusqu'au 7 novembre dernier.
Mais ils ont mal choisi leur source pour le chiffre. Parce que c'est des chiffres VG Charts. Donc,
Ouais, bah écoute.
Parce qu'apparemment.
Moi, je me dis que je fais confiance à Guinness World Record. Après.
Parce que si tu te bases apparemment sur les chiffres de Sony, ils seraient peut-être même déjà au-dessus de.
Genre à 500
Non,
si c'était à 500.
Pas à 500.
Si c'était à 500, on aurait déjà eu un communiqué. On va dire qu'ils sont entre 450 et 480.
Déjà 450, c'est quand même ultra balèze.
Oui, voilà, c'est énorme.
Bah, en cas de console de
salon. En console de salon, on parle.
C'est juste n'importe quoi.
Parce que là, je pense que avec la PS.
Après, ils ont sorti 4 consoles.
Avec la PS4. Ils doivent plus être très loin des 100 millions distribués.
Ouais. Mais ils les ont passés, je crois.
Distribués, ouais. Ils les ont passés.
Oui,
déjà.
Je
confirme qu'on a fait
pour moi,
fait
la PlayStation 1, 2 et 4 ont passé la barre des 100 millions.
Tu te rends compte, sur 4 consoles de salon que t'as vendues, il y en a 3 qui ont fait plus de 100 millions. Et celle qui n'a pas fait les 100 millions, elle a fait un chiffre tout à fait respectable aussi. Mmh. C'est une sacrée lignée quand
et
même.
Je sens que la PS5 elle va faire encore mieux, je sais pas pourquoi.
Attends de voir. La suffisance des vainqueurs, des fois. Ouais.
J'attends pas.
Okay. Ça mène à des Champs-Elysées complètement vides.
Et je pense que la Scarlett va faire 1 milliard de ventes.
Ok, non,
c'est vrai.
Ok,
je l'ai vu dans les bitmap books.
Allez, bah vous le notez, hein, 1 milliard d'exemplaires vendus pour la Scarlett.
Et Stadia, bah,
Traz, 3 décembre 2019.
C'est vrai. Tu sais qu'on est en 2020. Toi, t'as douté pendant une seconde.
Non, j'essayais de trouver un
douté,
j'essayais de trouver un truc drôle à répondre, mais ça ne m'est pas venu.
Bon, allez, tout ça pour dire que voilà, c'était le thème de la. De, j'allais dire de l'anniversaire, non, c'est thème numéro 3 sur la PlayStation 1.
C'est Capcom. 20,
c'est 25 ans. Et de Capcom SNK que vous avez sous les yeux ici. Et il est l'heure de passer au hors-jeu, Serge Ami. Au hors-jeu.
Serge Ami.
Tu connais pas Serge Lama ?
Serge Ami.
Et c'est Thomas qui va nous en parler de ce hors-jeu. Et hein,
oui.
Thomas ?
Et oui, Jamy. Encore un bouquin cette semaine, décidément.
Capcom qui l'édite.
Non, mais il y a du Street Fighter sur la couverture.
C'est magnifique, magnifique.
Vous l'avez ici, le book non officiel du pixel art, qui est édité une fois de plus chez Bitmap Books. Mais alors pour le coup, ça n'est pas un ouvrage qui vient de chez eux. C'est un ouvrage allemand à la base, Yafol.
Hugo Ouvrage, tu connais?
Ouais, exactement.
Bah voilà.
C'est un éditeur à la base donc allemand qui s'appelle Electro Spieler qui a sorti ce bouquin qui est donc rédigé par Robert Bannert et Christine Bauer. On peut pas faire plus allemand que ça. Si, Schmidt peut-être.
Bunter.
Mais arrêtez un
Close.
Petit peu là.
Mais du coup, vous avez quoi à l'intérieur? Vous avez 272 pages qui reviennent uniquement sur la Super Nintendo.
C'est la classe.
Et des choix de panorama, de sprites comme Bitmap Books a l'habitude de les faire, sauf que là, comme ça n'est pas directement chez eux, mais qu'il est édité et traduit en anglais par leur bon soin, on est quand même un petit cran en dessous des productions habituelles de l'éditeur britannique. Déjà au niveau du format, on est moins dans la hauteur et plus dans la largeur. Et la mise en page, même si on a des belles doubles pages avec des fonds, des backgrounds, des sprites des fois détaillés, on n'est pas sur le niveau de finition et le côté waouh qu'on peut avoir sur les Visual Compendium par exemple ou ce genre de truc.
Oh, tout de suite.
Alors, ce qui est intéressant par contre, c'est que c'est un peu découpé par thématique. Vous avez les RPG, les jeux d'aventure, les jeux de plateforme, les jeux à licence de l'époque. Donc, on a un petit peu des comparatifs, les shoots. On voit pas mal de choses assez différentes. Là, vous avez Parodius, par exemple, avec cette dame légèrement vêtue.
Exact.
Et quelques encarts de temps en temps sur des spécificités visuelles de l'époque, comme par exemple l'utilisation du mode 7 ou le fait de voir les jeux de haut dans les jeux d'aventure. Donc, on a quelques petits comparatifs de la manière dont c'était présenté à l'époque. Le problème, c'est que, comme vous l'aviez là à l'écran grâce à Poufy, des fois, on a des beaux dessins, n'importe quoi, screenshot comme ça, où là par exemple dans Soul Blazer on vous explique que finalement ce boss de fin qui est quand même très impressionnant, c'était un fond d'écran avec seulement quelques petites animations pour ce qui vous attaquait, sachant que c'est le boss de fin. Je suis désolé de ruiner la légende, mais
le mythe.
On a les coulisses et quelques petites astuces de programmation comme ça à l'époque, mais globalement je trouve que on est encore sur des visuels un petit peu sages par moment, et surtout des bouts de texte qui nous apprennent finalement pas grand chose, qui sont plus des souvenirs. C'est plutôt un bouquin assez généraliste finalement sur le pixel art de la Super Nintendo,
un peu facile à faire quoi.
Oui. Ouais. En l'occurrence, c'est plus à offrir à quelqu'un d'un peu nostalgique qui a plus forcément mis le nez dedans depuis un petit moment. Vous n'allez pas forcément apprendre une tonne de trucs. Alors voilà, de temps en temps, il y a des petits découpages assez sympas de RPG. Je crois que c'est Lufia 2 là en l'occurrence. Quelques petits focus sur des détails sympathiques, mais surtout des jeux qui manquent. C'est un contre-exemple. On l'animation justement de ce boss, c'est le deuxième donjon de Link to the Past, qui était en fait une superposition de petits éléments, mais c'était pas un ennemi animé parce que c'était trop gourmand pour le processeur de la console. Je suis désolé, on va démonter tous ces souvenirs d'enfance, mon cher Plumeau.
Tu l'imites. En fait, n'achetez surtout pas ce bouquin.
Les uns après les autres. Non, mais voilà, il y a des choses intéressantes, mais globalement, on n'est pas sur un bouquin aussi beau et aussi bien fini que ce qu'on a l'habitude de voir chez Bitmap.
Un bouquin assez facile, quoi.
Donc ce serait plus pour des gens qui se sont peut-être un petit peu éloignés ou qui ont une certaine nostalgie et qui n'ont pas rebranché une console 16 bits depuis assez longtemps.
Ça reste des belles images.
Oui, c'est ça.
Oui, mais tu vois, la mise en page, des fois elle laisse beaucoup de place en fait à des blocs comme ça blancs qui les entourent, et on aurait pu prendre un petit peu plus de place pour vraiment voir le pixel dans toute sa splendeur. Il y a de temps en temps des jolies choses et de temps en temps beaucoup moins. Donc on est face à un ouvrage qui est un petit peu inégal, alors qui est quand même bien garni. Il y a 272 pages de pixel art, il y a quand même de quoi faire. Le problème, c'est que
comme c'est un ouvrage allemand, l'impasse est faite sur pas mal de jeux qui sont restés uniquement japonais en fait, des RPG qui ne sont pas sortis chez nous, ou des suites. Pourquoi montrer seulement dans Kekan Country quand le 2 et le 3 sont allés toujours plus loin dans justement la partie graphique,
côté généraliste dont tu parlais peut-être.
Exactement, il manque des jeux, tandis que d'autres comme Zombie at My Neighbors ou Young Merlin, enfin des jeux qui n'avaient pas un truc particulier à proposer, sont vachement mis en avant, et tu te demandes un petit peu pourquoi. Donc,
peut-être qu'ils ont eu le droit d'utiliser que ça, c'est tout.
C'est un point de vue un petit peu européen finalement sur la Super Nintendo,
sur la vie.
Et puis bon, alors après ça relève du détail, mais on voit bien que certains screens en fait voilà, pourquoi s'attarder sur
c'est quoi ça,
Dracula X, sur Dracula,
Dracula
X, alors que la version
Dracula WX,
la version PC Engine est tellement tellement au-dessus.
XX. Et pourquoi ces 25 pages sur Schnitzel Adventure
Level of Azimuth.
Dans le détail, on voit que sur certains screens, bon, ça a été sans doute pris à l'émulateur parce qu'on a des barres de vie tout le temps remplies, genre dans Castlevania 4 ou ce genre de trucs. Des choses
en
un petit
plus,
peu.
S'ils ont fait des trucs à l'émulateur.
Des choses un petit peu bizarres. Bon, et puis voilà, d'un autre côté, bah, vous avez le découpage des sprites de Super Street Fighter 2 qui sont sympas comme tout. Voilà, un ouvrage inégal, on va dire.
À qui... 300 euros.
Non, pour le coup, il est à 30 pounds ou 40 dollars, donc on est à 35-36 euros si vous faites la conversion.
Ça va, c'est raisonnable, on va dire.
Par contre, en termes de finition, on est chez Bitmap quand même, donc ça reste
du
un bon bouquin.
Du cartonné bien solide.
Du cartonné bien solide, un petit coffret justement pour pouvoir le ranger.
Mais ça, à offrir, c'est bien quoi. Voilà, si tu connais quelqu'un qui adore ce genre de choses.
Voilà, et qui parle anglais.
C'est bientôt Noël. Merci.
Et qui parle anglais aussi accessoirement, parce que évidemment, oui, il est traduit en anglais.
Ouais, alors, et qui a pas le nez dedans tout le temps non plus. Parce que ça, tu vois, si tu as un beau bouquin comme ça, mais que t'apprends pas grand chose.
Oui, c'est plus pour les nostalgiques, peut-être un petit peu éloignés. Si vous voulez l'original qui est disponible aussi en allemand, c'est Das Inoffizielle Super NES Pixelbuch. Voilà.
Ah, okay. T'es sûr que t'as le bon accent?
Jawohl.
Ok.
Ich verstehe.
Elle t'a fait répéter avant, c'est ça?
Nicht. Qui, elle?
Das ist gut.
Elle parle pas allemand, elle parle pas alsacien non plus d'ailleurs.
Ah bon,
donc,
et Das ist gut,
donc
censure,
personne ne m'a fait répéter.
Bon, c'est Ergut alors tout ça.
Voilà, donc,
d'ailleurs, j'ai jamais pris de cours d'allemand.
J'ai fait allemand LV1, c'est ça le drame.
Moi, j'ai fait allemand LV1.
The Unofficial SNES Pixel Book, c'est chez Bitmap Books en l'occurrence, et donc ça coûte à peu près 35 euros.
Merci beaucoup Thomas.
Voilà, voilà.
Bah parfait, écoute, tu vas le laisser ici, on va se le partager.
Ok.
On va le couper en 4.
Chacun une page.
Oh, le livre là, Super NES, est-ce que.
N'empêche que tu sais ce qu'on pourrait faire avec ce bouquin, le prendre, arracher les pages et les coller partout. Bah ça ferait une nouvelle déco.
Non, on pourrait mettre des pentagrammes au sol aussi.
Exactement.
Ça,
oui,
ça aussi, regarde, tiens, t'as vu. Hop.
Ouais, tu t'es encore échoué. Hein,
tu voulais le mettre dans le trou.
Je vais passer le cercle. Non, de la main gauche, je peux pas.
Ah bah.
C'est pas possible. Je suis pas gaucher moi. Par contre, je peux te donner des tartes à la main gauche. Bon bah voilà, hein. c'est la fin de ce podcast.
C'est
515.
Tout pour cette semaine.
Tout à fait.
Et oui.
Ah oui. C'est
et
vrai.
Je crois que tout est dit.
Ouais.
Il est temps pour nous de faire grève. Non, pas de faire grève, de tourner dormir.
On rigole, mais à cause des grèves, ça se trouve, il n'y aura pas de podcast.
À cause des grèves. Ouais. Non, ça par contre, c'est fort possible.
Faut le faire via Skype. Chacun dans sa petite fenêtre.
C'est tout à fait possible. Bonne remarque de Monsieur Plume.
Ah ouais,
à ma
faut qu'on fasse gaffe maintenant.
De Reims. qui a pas dit de mauvaise chose, effectivement, c'est même plutôt très intelligent. On ne sait pas s'il y aura un podcast la semaine prochaine.
Donc ça se trouve, c'est vous qui allez venir le faire.
Parce que le problème, c'est qu'on habite tous un petit peu partout sur le territoire national.
Bah, hein,
sur le territoire national.
Bah, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse les clés à la gardienne. Du coup, vous venez, vous lui demandez, et puis voilà.
Il y aura un podcast sur Bobrol Z. Et puis,
non, mais en plus, Poufy sera là. Donc à partir du moment où vous avez Poufy pour réaliser le podcast, c'est bon.
Poufy, ça va être royal pour toi.
Poufy, il va assurer tout seul. Tu sais, il va se mettre là, il va courir là-bas, il va revenir, il va courir. Enfin, je vais encore prendre.
Podcast avec Poufy et la gardienne.
Attends, c'est pas.
Discute pendant une heure.
Et nos collègues de ciné-série, il y a peut-être des gens qui seront là.
Bah
on
ouais.
Parler cinéma et jeux vidéo. Et
non, il faudrait faire comme le Club Dorothée, tu sais, pendant les vacances scolaires, on part à l'aventure.
Avec un chapeau,
ouais. On fait des émissions en Chine ou un truc
ouais,
comme ça.
Ouais, j'irai jouer chez toi et puis tu mets un coup de boule à celui qui vient, là, direct. Casse-toi, va jouer ailleurs. Bref, bon, bah, c'était tout, hein, je crois que tout est dit.
Du coup, on donne peut-être pas.
Non, bah, on sait pas. Moitié route, on donne pas rendez-vous. Malheureusement, on sait pas. Ça sera la surprise. J'espère qu'il y aura un podcast 516. Dès la semaine prochaine.
J'en veux en tout cas.
Exactement. Si c'est pas la semaine prochaine, ça
sera
la semaine d'après.
Et s'il y a pas la semaine d'après.
Et si ça dure 3 semaines la grève.
Voilà, si ça fait comme sous JP que ça dure 3 mois,
on viendra les faire en live chez vous, les
exactement.
Podcasts.
Parce que moi je suis désolé, mais je vais pas me descendre du Val d'Oise jusqu'ici à pied pour venir. Et en Uber, ça risque de coûter un peu
avec
cher.
Avec ton sac de ciment.
Mon sac de ciment.
Quand tu dis en Uber, c'est à dos de Julo ou en voiture.
Un Ubert. Voilà, voilà. Bah écoutez, merci à toutes et à tous. Et puis encore une fois, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Mais en fait, je sais pas, j'en sais rien, on verra.
On va dire une prochaine semaine plutôt.
Exactement.
Tout à fait.
Ce qui n'empêche pas de vous faire plein de gros bisous, évidemment.
Toujours à frayoter, celui-là.
Bah voilà, les bons sentiments.
La galanterie de Chantilly apparaît.
Ah, depuis qu'il est des livres allemands, hein, il est insupportable.
Mais bah, allez vous faire fister, qu'est-ce que vous voulez.
Surtout la Capcom Arcade, là, ça tue. Ou pas. Bon, allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine si tout va bien.
Ciao, à l'année prochaine.
Salut, bonne grève.
Ciao, ciao. Merci à tous. Salut, Poufi. Adieu.
Moitié route.